lights out. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Pour m'accompagner ce soir pour ce dernier mag de la saison, bonsoir Dino.
Oui, j'ai appris en mon absence que comme ça on rajoutait des émissions, on apprend des trucs. Bonsoir Shedji, bonsoir chers auditeurs.
Bonsoir Ben.
Guten Tag.
Et bonsoir Gus Gus.
Bonsoir. Et t'inquiète pas Dino, ça a été une surprise pour tout le monde.
Je crois, oui.
C'est vraiment pris par surprise.
Pouf, bingo, voilà.
Allez, dernier match.
Moi, je vous avoue, je ne sais pas ce qui m'attend dans cette émission. Je m'attends au pire. Ça se trouve, Shiji va improviser les SAV d'or.
Non, pas de SAV d'or ce soir. Non. Un mag. Ça va, vous n'êtes pas trop triste. C'est la dernière émission régulière de la saison.
C'est le dernier mag.
Oui.
Oui.
Mais le dernier, il n'y en aura plus après. On arrête les mags.
Je dis.
N'en dis pas plus. Et donc, parce que c'est le mag, vous le savez, on commence par donc le dernier ta gueule de l'année.
Ah.
Ouf.
Attention, hein, je lance, hein. Je préviens parce qu'on ne sait jamais.
Je m'accroche, je m'assois.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Et pour ce dernier mag de l'année, c'est Dino donc qui a préparé une petite question.
Oui, je m'expose au ta gueule ce soir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas là, que j'étais condamné au silence. Je me dis, ça suffit pas. Je pense que les gens aiment bien quand je me tais, donc je prends le risque. Je pose la question, et peut-être que j'hériterai d'un ta gueule ce soir. La question, cette dernière question, en tout cas pour le quiz du ta gueule, on ne sait pas s'il y en aura après, on ne dit rien. On en saura peut-être un peu plus en fin d'émission. Cette dernière question, messieurs, donc je vous rappelle pour gagner un ta gueule, vous avez vu comment je m'appelle parce que j'ai pas encore la question sous les yeux. C'est où peut-on désormais voir la création de Chris D'Aluzio ?
À Madrid ?
Non. Donc je rappelle, hein, vous coupez le chat, vous ne dites plus rien et. Enfin, vous parlez.
Je dis plus rien, bon, c'est pas rien, on va te laisser tout seul, mon gars.
C'est un nouveau thème, c'est ta propre question. Mais tout le monde se tait.
Est-ce que c'est à Bangkok ?
Non.
Chris D'Aluzio, c'est un artiste ?
Pour certains, c'est un artiste.
Mais c'est pas un art commun, quoi, genre la sculpture, la peinture, etc.
C'est dire que c'est un artiste, ça serait quand même ne pas souffler dans le sens du vent.
C'est quelqu'un qui conçoit des automobiles ?
Non.
Il est artiste du genre peintre ?
Il est artiste du genre pas peintre.
On a vu ça dans les trois dernières semaines ou on va le voir bientôt ?
Ah, on peut là maintenant, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir sa création. La question, c'est où ?
Sa création, donc il n'en a fait qu'une ou enfin, il en expose qu'une ou quelque chose dans le genre ?
Bah, là où vous pouvez la voir, il n'y en a qu'une seule exposée.
Et ça fait longtemps qu'elle est exposée ?
Sincèrement, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'elle est exposée de différentes manières. Là, ça fait quelques jours.
Donc, elle a déjà été exposée ailleurs ?
Non.
C'est exposé dans une galerie d'art ? Ou un musée ?
Pour certains, c'est une galerie d'art. Ou un musée. En tout cas, ça y ressemble.
Ça peut se bouger comme objet ? C'est facilement transportable ou...
Sa création peut se bouger. C'est facilement transportable.
D'accord.
Même donc très facilement.
Elle peut... Ah oui.
Donc c'est petit.
C'est pas grand.
Ça a des roues.
Excuse-moi, je l'ai dit, j'ai pas entendu. Ça a des roues, c'est ça ?
Oui.
Oui, ça a des roues.
Ça en a quatre ?
Non.
Ça en a deux ?
Oui.
C'est une moto, donc ?
Non.
Une bicyclette ?
Oui. Ça rentre dans la catégorie bicyclette.
Il n'y a pas un salon du deux roues en ce moment ?
Peut-être, mais non.
Non.
Ah, Un silence après une réponse. Toujours un silence.
Il n'y a que deux. C'est pas un truc type bicyclette.
Ah oui, non, c'est un vélo. Voilà. C'est le mot bicyclette qui laisse à penser. C'est la draisienne. Non, c'est là. C'est un vélo.
Ah, est-ce que c'est pas Fernando Alonso qui a choisi le vélo pour son équipe cycliste?
Mais ça a pas capoté, ça?
Non.
Non, parce qu'il a dit qu'il allait finalement la créer lui-même, son équipe. Il l'a déposé. Elle s'appelle FACT, Fernando Alonso Cycling Team. Ouais. Auprès de l'UCI, il a déposé ce nom-là. Mm. Et donc rien à voir avec Alonso.
Non.
Et c'est un vélo de compétition?
Oui.
C'est du cyclisme, c'est vraiment du cyclisme et pas du motocyclisme ou.
Non, c'est vraiment du cyclisme.
D'accord.
C'est un vélo de compétition, mais en soi, le vélo n'est pas trop important. Ce qui est important, c'est où on peut le voir aujourd'hui et depuis quelques jours.
Il a designé le vélo?
Il a designé le vélo.
D'accord.
Pour ça, je dis que
c'est. Il n'y a pas un vélo McLaren ou quelque chose dans le genre?
Oui, c'est le vélo designé par McLaren.
Si j'ai vu des photos, hein. Et donc, on le voit au McLaren Technology Center, quelque chose dans le genre?
Oui, on le voit, il est exposé au McLaren Technology Center, on se rapproche.
Sur le on peut le visiter sur Google, non? C'est pas ça?
Eh ben bravo Ben, effectivement. C'est
ma réponse était bien, était bonne.
De fait, il y est quand même, hein.
Il y est, mais depuis quelques jours, vous pouvez visiter, c'est ça bien grand mot, hein, vous visitez que le hall, mais quand même, vous pouvez visiter le McLaren Technology Center, le site de Woking, là où sont exposées toutes les Formule 1 et les voitures de production de McLaren. C'est effectivement une nouvelle dimension dans la solution Google Street View, vous savez, c'est ce qui vous permet de vous balader dans les rues. Avant, on devait se contenter des rues, mais avec la miniaturisation de la caméra, qui a notamment permis de découvrir les chemins de randonnée et notamment le Grand Canyon il y a quelques mois, dans Google Street View. Maintenant, c'est possible. Avant, c'était pas possible parce qu'on pouvait pas y accéder en voiture. Maintenant, on peut même rentrer dans des bâtiments. Il y a quelques temps déjà que Google essaye et incite les gens à déposer et à déclarer un peu les plans pour se repérer, mais maintenant ils sont allés plus loin en mettant directement des caméras dans des locaux. Le premier, ça a été la Burj Tower au mois de juin à Dubaï, la plus haute tour de Dubaï et d'Asie même, je crois. Et depuis, bah, plusieurs bâtiments se sont rajoutés. On peut notamment visiter le musée Lamborghini grâce à Google Street View, qui porte désormais très mal son nom. On peut aussi visiter le musée Honda, qui se trouve sur le circuit de Motegi, je crois. Et donc, désormais, on peut visiter le hall d'entrée du McLaren Technology Center.
Ah, c'est avec... que le hall,
oui.
Oui, c'est que le hall. Avec ces petits moments d'émotion où vous suivez un long couloir, où il n'y a rien. À un moment donné, vous croisez deux voitures sous des bâches.
C'est pas n'importe quelle voiture, quand même. C'est des McLaren P1, quoi. C'est leur prototype secret et tout.
Et vous arrivez devant une porte et voilà. Et là, vous pouvez que marche arrière.
Ce qui est rigolo, quand c'est pas flouté dans les couloirs, c'est qu'il y a personne en fait dans les ateliers. Les ateliers de course sont vides. Il y a vraiment pas une seule voiture, un seul châssis qui est là. Et quand apparemment il y a des choses à voir, ils ont tout flouté. Donc des fois, tu te retrouves dans des couloirs où tu vois rien.
Et la chose qui est très étonnante, c'est que donc vous êtes dans le hall, vous avez toutes les voitures. Et puis, à un moment donné, vous suivez, c'est le couloir où il y a les trophées. Donc, quand vous arrivez, vous cliquez dessus, vous tombez sur le vélo. Et quand vous prenez à droite du vélo, vous allez suivre le couloir où il y a tous les trophées McLaren, puisqu'on sait que McLaren garde les trophées, ne les donne pas aux pilotes, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs. Et tout au bout de ce couloir, vous avez un escalier. Et derrière l'escalier, si je ne me trompe pas, c'est la voiture championne du monde en 2008 avec Lewis Hamilton. C'est-à-dire que c'est la seule voiture.
Mais t'es pas sûr.
Ça me rappelle un peu cette voiture. Ou alors c'est celle de 2007.
Parce que j'étais pas sûr, parce que c'est un peu flou. C'est...
Non, mais c'est juste parce que je reconnais pas de modèle.
Ah, j'ai vu une de 2007 et bizarrement, ils ont exposé celle d'Hamilton et pas celle d'Alonso. Bon,
c'est étonnant.
Oui.
Tu veux dire qu'ils ont exposé celle de Raikkonen et celle de Massa? Oh, le gros boulet. Ça, c'est très bien avec la McLaren de 2007.
Bah écoute, justement, tu sais que sur le chat, Fab nous demande, est-ce qu'il y a une photocopieuse dans Google Street View?
Mais bon, ça vous permet quand même de voir un peu comment est organisé ce centre. Voilà, c'est une initiative assez sympa.
Avec son haut et son grand lac, là.
À voir si Ferrari nous fera visiter sa soufflerie la saison prochaine. Je suis pas sûr qu'ils aient envie qu'on leur pique leur secret.
Ouais, ils pourront s'ils devront la refermer.
Donc voilà, c'était cette dernière. Et bravo Ben, tu gagnes le dernier ta gueule de la saison.
Bravo.
Et peut-être le dernier ta gueule tout court.
Non mais arrête là, tu y a...
Il va falloir cracher la feu.
Faut bien doser le teasing, tu comprends?
Mais c'est peut-être la fin du SAV. Je dis ça, je dis rien. On va peut-être annoncer, on va peut-être choquer là, les gens au bout de 5 ans.
D'ailleurs, merci de nous avoir suivis, on n'a rien préparé de plus.
Non, voilà.
On vous laisse coucher tôt.
Oui, ça c'est vrai ça.
Non, allez, je vous propose quand même de parler un petit peu d'actu, hein, parce qu'il y a eu...
Genre une heure un quart.
Ouais, vite fait, quoi.
Allez, tout de suite, c'est le podium de l'actu.
Le service après-vente vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et... pour cette première semaine post-Grand Prix, eh bien, on a quand même eu quelques actus et pas mal d'actus fort intéressantes. Et déjà, forcément, il faut qu'on ouvre la page transfert, la traditionnelle page transfert, puisque ça y est, on a eu des confirmations à l'appel, hein, des confirmations.
Ah, Jean-Luc Moncey va être content.
Oui, ah bah voilà, Jean-Luc Moncey va être content. Hein.
Bah, il a fanfaronné sur Twitter. Hein. C'est une information qu'on vous donnait sur je sais pas quoi.
Formule à ouais. Comment tu peux oublier le nom de cette émission?
Oui.
Non, non, mais j'ai pas oublié, je voulais... Enfin, c'est juste... je voulais abréger ça.
C'est l'émission qu'il a voulu oublier, pas le titre. Et donc, la première nouvelle qu'on a eue, c'est la confirmation des pilotes Lotus. Alors, Romain Grosjean, bon, ça, c'était pas vraiment une surprise. Mais donc, il sera accompagné de Pastor Maldonado en 2014.
Ce qui n'est pas une surprise non plus, hein, au bout
du compte. Ce qui n'est pas fondamentalement une surprise.
D'ailleurs, je crois qu'ils avaient gagné un sondage dans le SAV, non ? L'usine de retraitement de carbone ou je sais plus quoi, plus tôt dans la saison.
Oui, je crois, oui.
Voilà, bah, ils vont faire équipe, hein, déjà, c'est le premier pas vers...
Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que les discussions avec Quantum seraient toujours en cours.
Oui.
Ils ont de l'espoir, les garçons. Hein.
S'ils peuvent accumuler le max de fric possible, hein, ils vont pas se gêner non plus.
Ah bah oui.
Hein.
Dans l'absolu... Bah bon.
C'est pour ça que moi j'ai été très étonné de voir beaucoup de gens dire justement dès l'annonce de Maldonado ah bah Quantum c'est fini etc etc.
Face à la non arrivée de Quantum qu'ils aient choisi Pastor.
Mais à ce moment-là je pense que Lotus se serait pas gêné pour définitivement tourner la page avec les médias aurait dit bah voilà ça a capoté etc nous on est passé à autre chose. Dans l'absolu, quand ils ont annoncé Maldonado, il n'y a eu aucune autre information sur ou le moteur ou d'autres investisseurs. Donc, ça laissait le champ des possibles ouvert.
En fait, c'est peut-être le secret pour réussir en 2014, c'est rouler sans moteur.
C'est vrai. Officiellement, ils n'ont toujours pas de moteur.
Ils vont racheter un vélo à McLaren, du coup.
Est-ce que ça fait finalement de Pastor le grand gagnant ou un des grands gagnants, en tout cas, de ces transferts de 2014?
Ça dépendra des perfos de la Lotus l'an prochain.
Voilà.
Vu qu'aujourd'hui, on ne sait pas le moteur, on ne sait pas... voilà, Eric Boullier dit qu'ils peuvent créer la surprise, mais là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'infos qui nous permettent d'être d'accord avec lui. On l'espère,
moi,
évidemment.
J'ai envie de dire, le grand gagnant, c'est Lotus. Il gagne un pilote qui va payer son baquet, même si j'ai toujours un peu de doute sur la viabilité de PDVSA à long terme, tout en réussissant quand même à garder Total et PDVSA, puisqu'il semblerait qu'il y ait un accord qui a été trouvé entre les deux pour cohabiter. Et puis, ils n'ont pas non plus un mauvais pilote. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut de Pastor Maldonado, mais dans ses bons jours, Pastor Maldonado est un très bon pilote qui n'a pas forcément à souffrir de la comparaison avec Grosjean, qui fait partie de mes préférés. Donc, je dis d'autant plus que j'aime bien Grosjean. Après, voilà, ce qu'il faudra voir, c'est on a vu un Pastor faire beaucoup de conneries et être sincèrement mauvais cette année, aussi parce qu'il y avait un peu de frustration. Il faudra voir si la Lotus n'est pas très bonne l'année prochaine ou si elle est en deçà de ses espérances. Est-ce qu'on va retrouver un peu le Pastor Maldonado qui fait un peu tout et n'importe quoi ou est-ce qu'on va retrouver le Maldonado qu'on a pu voir brillant? Enfin, tout le monde oublie un petit peu sa victoire au Grand Prix d'Espagne qui, certes, bénéficie un peu de la disqualification de Lewis Hamilton, mais il fait quand même une course absolument somptueuse face à Maldonado et le troisième, je ne sais plus qui lui mettait une pression d'enfer pendant toute la course. je crois que c'est Vettel d'ailleurs.
C'est Raikkonen et Grosjean qui revenaient sur, en fin de course.
C'est Raikkonen et Grosjean. Enfin voilà, il fait quand même une course somptueuse. Il en a fait d'autres. Enfin, il a fait des courses à Monaco, que ce soit en GP2 ou en Formule 1, où il a été très bon. Donc c'est pas forcément un mauvais choix. C'est un mauvais choix sur la constance et sur ce qu'on a pu voir cette année. Mais après, s'ils font une bonne voiture et qu'ils arrivent à le canaliser, c'est un pilote qui quand même cumule. C'est un peu avoir la crémière, le cul de la crémière pour le coup. Donc ça peut être intéressant.
Pour le canaliser, ils ont une bonne adresse. Hein. Ils ont le psy de Grosjean. Ça peut toujours être utile. Ouais, après, c'est vrai que je te rejoins, Dino, sur le fait que ce n'est pas forcément une mauvaise opération. D'abord, sur le court terme, ils ont quand même l'argent de PDVSA, ce qui leur permet de donner un peu d'air et de pouvoir continuer à négocier sereinement avec Quantum sans avoir forcément l'ultimatum 2014. Là, je pense qu'ils sont couverts sur au moins un moyen terme. Et puis effectivement, Maldonado a des bons jours. En qualif, c'est un très très bon pilote. Ce sera l'occasion de bien jauger Grosjean sur cet exercice-là, parce qu'il est pas mauvais. Il est rapide aussi, Grosjean. Maldonado est très rapide sur un tour. Maintenant, effectivement, ce qui lui manque, c'est la constance sur la course. C'est vrai qu'en 2012, il a gagné le Grand Prix d'Espagne. On lui retirera pas ça. Dans le dernier SAV, je parlais du Grand Prix de Singapour aussi, 2012, où il a été très très bon. Maintenant, il va falloir qu'il ait un niveau semblable plus souvent, parce que c'est un peu monsieur 50%, quoi. Ça passe ou ça casse. Et Lotus aura besoin aussi de pilotes qui marquent des points pour le championnat constructeur. C'est aussi important.
C'est pour ça, Shinji, tu nous demandais si ça allait être le grand gagnant de l'année prochaine. Ça tient a priori
en tout cas,
plus
par
lui.
Par rapport au transfert.
Oui, par rapport au transfert, mais finalement, ça tient plus à lui qu'à Lotus, parce que c'est lui qui doit commencer à mettre un pied devant l'autre, faire deux ou trois courses de suite de bon aloi, ce qui a priori, quand on regarde ses résultats, c'est très rarement produit au long de sa carrière, pour vraiment qu'il puisse être d'une part une aide pour Lotus et d'autre part que Lotus à l'inverse puisse lui être une utilité.
C'est l'occasion ou jamais pour lui en tout cas de montrer ce qu'il sait faire. On sait de combien d'années est le contrat.
Mais enfin,
même si on savait de toute façon, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais ça veut pas dire grand-chose.
Sergio Pérez avait un contrat sur plusieurs années,
c'est vrai.
Il est advenu, donc on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des options et compagnie, donc
faut
le voir.
Ce qui est
important aussi, c'est que je pense que c'est un bon coéquipier pour Grosjean. C'est-à-dire que c'est un coéquipier dont on connaît quand même la valeur. Maldonado, on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, on connaît dans ses bons jours, mais il va aussi permettre de... Je pense que Grosjean va en disposer assez facilement. Ça va peut-être mettre d'ailleurs sous pression Maldonado. Mais je pense que justement, ça va aussi permettre d'avoir quand même une valeur à côté de Grosjean, quelqu'un qui est une référence, mais en même temps qui va aussi pouvoir montrer la constance de Grosjean, qui va pouvoir montrer les qualités de Grosjean par, entre guillemets, l'inconstance dont fait preuve généralement Maldonado.
Oui, puis Grosjean, il est plus en plus apprécié, j'ai envie de dire, dans l'équipe. Il s'est imposé avec l'annonce.
Il va être le leader de l'équipe l'an prochain.
Mais clairement, de toute façon, je pense que de par sa position, déjà par le fait qu'il est déjà dans l'équipe depuis 2 ans, ce sera sa troisième. Forcément, par la force des choses, l'écurie va pour 2014, plus déjà en début d'année, ce sera le point de référence pour développer la voiture 2014, puisqu'il connaîtra déjà la voiture 2013, il sait déjà comment l'équipe travaille, l'équipe le connaît. On l'a un peu vu cette saison avec Rosberg par rapport à Hamilton. C'est aussi ça qui a fait la différence. Hamilton n'a jamais été très à l'aise avec la voiture. Rosberg était là depuis une saison déjà et c'est devenu le point de référence. Ça peut changer en 2014 pour eux, mais en 2014 chez Lotus, oui, Grosjean sera le point de référence à Maldonado de trouver sa place.
Et il y a un autre point aussi qui n'est pas négligé et qui est intéressant dans le choix de Maldonado, c'est que Maldonado, c'est un pilote qui a été sur une Williams, donc déjà quand même avec des habitudes de grande équipe, en tout cas historique, mais surtout qui a eu le moteur Renault, et encore plus important, qui a été dans l'équipe au moment où ils sont passés au moteur Renault. Donc il a pu voir tout ce que ça demande en termes d'expérience et en termes de développement, etc., tout ce que ça demande d'intégrer un moteur. Ça, il l'a vécu. Donc on peut quand même se dire que pour Lotus, c'est pas un si mauvais choix. Là où Hülkenberg, malgré tout son talent, on sait très bien qu'il est un peu diesel, Hülkenberg, il a une demi-saison où il faut qu'il se règle. Là, en plus, il aurait fallu se régler en découvrant un moteur qu'il a jamais eu, et ça aurait été une autre paire de manches. Donc je pense quand même que Maldonado, c'est pas un si mauvais choix que ce que certains veulent bien dire.
Et donc sinon, forcément, s'il n'a pas obtenu le baquet Lotus, ça a été officialisé aujourd'hui même. Nico Hülkenberg revient chez Force India, paraît-il pour plusieurs années. Je dis bien paraît-il parce que bon, on ne sait jamais avec lui.
Oui, même lui dit normalement, ça porte plusieurs années, mais.
C'est pareil, le SAV a un contrat jusqu'à fin 2014. Pas sûr que.
Hein. Donc là encore, c'est finalement un choix logique. À partir du moment où il n'était pas chez Lotus, Force India devient le meilleur baquet.
Ouais, enfin, il aurait quand même pu rester chez Sauber. Sauber, même si on n'en parle pas beaucoup, finalement, a fini par conclure, il y a un petit moment déjà, ses accords avec les Russes, il me semble, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc du coup, Sauber, ça semblait pas un très mauvais choix, d'autant plus que eux étaient voulaient le garder. Ils lui ont proposé publiquement de rester. Ils ont déclaré publiquement que c'était leur premier choix. Ils pouvaient rester s'ils le voulaient. Après, Force India, c'est pas une mauvaise équipe, loin de là.
Je pense qu'elles se valent. Force India, Sauber, elles jouent dans le même cours. On l'a vu, fin début de saison, Sauber était un peu nulle part. Deuxième partie de saison, changement de pneus, Sauber revient à un niveau plus qu'honorable et Force India fait le chemin inverse avant de retrouver quand même un niveau, de revenir à un niveau meilleur. Donc l'un ou l'autre aurait été un bon choix, je pense. De toute façon, c'était les meilleurs choix. Après Lotus, c'était les meilleurs baquets, ça c'est une évidence. Donc, maintenant,
pour le coup, du coup, si ça se valait, autant pour une fois jouer la carte de la continuité chez Sauber, parce que là, comme l'a dit Dino, il va falloir qu'il se réadapte à l'écurie, même s'il la connaît. C'est pareil, il va falloir recommencer à se travailler, de perdre les habitudes qu'il a accumulées cette année. Enfin, c'est pas évident. Il va peut-être pas être tout de suite dans le coup, alors que s'il avait été chez Sauber et que la Sauber est d'un niveau à peu près équivalent ensuite de la Force India, voire un peu au-dessus. Et même un peu en dessous, à la limite, il aurait été là pour concourir quand même, quoi.
Maintenant, oui, il va aussi falloir qu'il remette l'équipe à sa main. Faut quand même rappeler qu'il a quitté Force India de son propre chef. Il est parti. On l'a pas poussé vers la porte. Il est parti pour aller chez Sauber. Et là, il revient. On se rappelle d'un Alonso qui avait fait ce parcours-là, qui avait décidé de partir, qui est revenu chez Renault. Et il y avait quand même quelque chose qui avait changé dans la relation d'Alonso avec son équipe. Parce qu'il y avait quand même ceux qui étaient là à l'époque où il était parti, soit un an avant, avaient quand même un peu le sentiment de se dire on est son second choix. Seulement quand il a besoin de se replier. Et c'est un peu le sentiment qu'on a avec Hülkenberg. C'est un peu choix par défaut, forcément. Donc il va peut-être y avoir pour lui du travail pour remettre l'équipe de son côté, même si je pense que le talent parlera, mais c'est pas forcément toujours gagné de réussir à convaincre l'équipe que là tu t'installes et pour de bon, quoi. Il s'est quand même fait une réputation de chasseur de primes aujourd'hui, enfin chasseur de primes, oui,
et puis tous les ans il change, donc
Là il revient, moi je serai sincèrement, aujourd'hui je serai chez Force India, je dirais écoute mon coco, pour que je te traite à la bonne, va quand même falloir que tu mouilles sérieusement le maillot. Donc je pense que c'est aussi un défi intéressant pour lui, ça va être intéressant de voir comment il peut se réadapter à cette équipe, plus surtout de ce côté-là, de ce côté affectif.
Il va raquer un resto pour se mettre l'équipe dans sa poche.
Et pour revenir sur les Russes par rapport à Sauber, c'est vrai qu'il y a eu une annonce comme quoi c'était fait pendant l'été, si mes souvenirs sont bons.
Oui, ça s'en
Mais depuis, je ne sais pas si on a eu beaucoup d'infos.
Sirotkin fait des essais, donc a priori, c'est que...
Oui, mais
s'il
n'y
avait pas
c'est
cette
justement...
volonté des Russes, je pense qu'ils ne prendraient pas Sirotkin d'eux-mêmes. Donc c'est bien que ça...
Oui.
C'est
oui,
bien qu'il y a une influence.
Sirotkin a roulé effectivement dans une Ferrari, mais il n'a pas réussi à avoir sa super licence. Donc du coup, est-ce que Sauber va vraiment prendre le risque de l'aligner en course qu'il ait sa super licence d'ici là? Je pense qu'ils sont un peu plus frileux.
Le fait qu'ils essayent, ça veut bien dire qu'il y a une influence dans la décision, dans l'équipe. Donc bien que
Sirotkin ne parvient pas à avoir sa fameuse super licence, est-ce que les Russes vont pas dire « Ah ben non, nous, on garde nos billes pour nous ». C'est un peu ça aussi qu'il faut voir.
Je pense
qu'il y a
quand même
une petite incertitude. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué dans le choix d'Hülkenberg de retourner chez...
C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a annoncé Quantum, enfin Infinity Motorsport concernant Lotus, on avait quasiment dit que c'était signé. Et c'était le patron de Lotus lui-même qui, quelques semaines plus tard, et c'était pas signé à personne, avait dit non, c'est pas signé. Et là, sur Sauber, on peut se poser la même question, c'est qu'on a annoncé des choses, mais concrètement, il n'y a pas eu de séance officielle réunissant tout le monde, faisant une poignée de main. Enfin, il n'y a pas eu pour le coup, de signature officielle. On a que, oui, on a trouvé un partenaire, ils vont mettre de l'argent. Et moi, la manière dont j'interprète le fait qu'effectivement, ils fassent rouler Sirotkin, dont ils n'ont pas envie de l'avoir, et ça, c'est une évidence, le fait qu'ils le fassent rouler, c'est que les Russes sont là, effectivement, mais qu'il n'y a rien de fait. Que, effectivement, Sauber se dit, si on veut sécuriser leur argent, il faut avant tout qu'on garde Sirotkin, et le fait qu'ils gardent Sirotkin, c'est que pour le moment, rien n'est signé.
Moi, je pense qu'à partir du moment où rien ne serait signé, il s'épargnerait la dépense de dépêcher une voiture plusieurs jours sur un circuit, tout ça pour rien récolter derrière si jamais le deal se fait pas. On sait
c'est ce qu'on appelle un investissement. C'est tu dépenses un peu d'argent. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'il faut voir, c'est pourquoi faire avec Ferrari. Peut-être que tout simplement, ils ont réussi à négocier un truc avec Ferrari pour que Ferrari assume les coûts du roulage en faisant un investissement, en se disant voilà, ça nous permet de faire rouler Sirotkin, de maintenir le dossier en vie en attendant que ce soit signé, puis de leur dire une fois que c'est signé, écoutez, là c'est signé, mais bon, Sirotkin il est pas prêt, on lui propose autre chose.
Est-ce que justement c'est pas pour leur montrer justement qu'il est pas prêt, l'envoyer au casse-pipe et dire regardez, il y arrive pas.
Les deux. Mais c'est le truc, c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce contexte-là et dans cette. C'est ce qu'on dit depuis des semaines, c'est que on ne peut, tant qu'il n'y a strictement rien eu d'officiel, on ne peut pas annoncer les choses comme existant. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne sait pas si les Russes sont véritablement impliqués dans cette équipe ou s'ils sont aux portes d'être impliqués. Donc, en fonction du scénario de l'un ou de l'autre, il y a des interprétations possibles de ce qui se passe et les deux interprétations sont valables. C'est juste que quand on aura le fin mot de l'histoire, et qu'on aura un jour quelqu'un qui nous dira bah oui, c'était déjà signé au mois d'août, que là on pourra dire bon, ok, l'interprétation juste c'était celle-là. Pour le moment, on est un petit peu en train d'interpréter parce que concrètement, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas d'annonce. Enfin, il passe un deal, il n'y a même pas d'annonce de sponsor, il n'y a rien qui est mis en place. Quoi. Donc, à part Sirotkin, moi j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour le moment, ils se servent de Sirotkin comme d'une carotte pour vraiment nouer le truc avec les Russes et que ils le mettront. Après, ils verront s'ils sont obligés ou pas de le mettre, mais pour le moment, il n'y a rien qui est fait. Si vraiment c'était fait, ça fait longtemps que Sirotkin aurait été officialisé. Il a été à demi-mot, et puis on sent clairement qu'aujourd'hui, il discute avec d'autres personnes, donc c'est peut-être qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz, donc c'est pas aussi fait que ce qu'on voulait bien le dire à une époque.
De toute façon, Sirotkin n'a pas de super licence.
Ouais, c'est ça le problème.
Il a essayé de la passer, il l'a pas eu. Ils l'ont fait passer à plus ou moins en même temps que Daniil Kvyat, avant le Grand Prix d'Austin, je crois. Et le pilote Toro Rosso l'a passé au la main sans problème. L'autre, Sirotkin, n'a pas réussi à aller au bout de la distance demandée. Donc forcément, Sauber est obligé de le faire rouler pour qu'il ait sa super licence, pour pouvoir le mettre dans le baquet titulaire l'an prochain, éventuellement. Mais bon, s'il n'a pas sa super licence, ils ne vont pas pouvoir faire
grand. Non. Alors, à noter, en baquet restant, actuellement, après ces officialisations, il y a donc le deuxième baquet Force India. On parle beaucoup de Sergio Perez, puisque visiblement, du côté de Sutil...
Ce serait plutôt chez Sauber, lui.
Voilà. Hein.
Jean-Louis Moncey me dit que c'est fait. Ah, donc c'est fait.
C'est vrai qu'on a quand même senti le vent tourner du côté de Sutil qui,
il a balancé,
dans ses déclarations, commence déjà un peu à être un peu moins policé. Mmh. il commence déjà à un peu jeter la faute sur la voiture de cette année. Enfin, il trouve plus d'excuses à son équipe. C'est pas forcément
le verre sur la nuque.
Mec corporate, quoi.
Donc, il y a le deuxième baquet Force India, les deux baquets Sauber. Donc, on l'a dit, Sirotkin, on sait pas trop. Il y aurait Sutil, donc, dans l'un des deux baquets. Donc, on pourrait imaginer Sirotkin et Sutil, ou bien Sutil avec quelqu'un d'autre. On a aussi Caterham, qui n'a pas officialisé ses pilotes. Vu qu'on est en fond de grille, ce sera peut-être très tardif. Je sais pas, c'est assez courant quand même, faut bien le dire.
Oui.
Et y a Marussia, c'est pareil, on ne sait pas exactement quel duo de pilotes. Enfin, Bianchi, lui, a été officialisé pour l'an prochain.
Oui, loin.
Voilà, il y a longtemps. Donc, ça serait le deuxième baquet de chez Marussia.
En sachant qu'il y a des rumeurs de fusion, Marussia...
Ah, on en reparlera.
Ah, je ne dis rien, alors.
Il y a autre à dire sur les transferts, peut-être que vous aimeriez voir. Hein.
Sébastien Bourdet chez Force India. Qui tient.
Le retour de Montoya. En F1. Quoique, c'est peut-être pas la bonne idée, c'est avec le poids minimum. Non, c'est une connerie en fait. c'est pas la saison pour revenir pour Montoya.
D'ailleurs, Ricciardo va devoir perdre 2 kilos cet été. Enfin, ouais. Cet hiver, pardon. Ouais. C'est une question d'hémisphère, moi je suis en été. C'est pour ça.
Ils sont bizarres, ces Belges.
Sinon, autre, alors pas vraiment transfert, mais quelqu'un qui ne sera plus dans son équipe l'an prochain, c'est Ross Brawn, qui quitte potentiellement Mercedes, qui va à la pêche. Il a confirmé en tout cas que ça serait une année sabbatique pour lui. Que
une année, fait... voire 6 mois sabbatique.
Non. Il ferait une année sabbatique, mais que s'il y avait des projets, il les annoncerait cet été. Donc en gros, s'il va chez McLaren Honda, on le saura cet été.
Ouais.
Voilà.
Bah, ça devient l'option la plus vraisemblable s'il va revenir.
C'est-à-dire que concrètement, il a ce qu'on appelle une clause de...
Sans doute, oui, de
en anglais, de gardening. C'est-à-dire qu'il, après la rupture de son contrat, il ne peut pas... parce que ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une fin de contrat. C'est, il le rompt, il met un terme à son contrat de façon anticipée. Donc, Mercedes a sans doute dû lui imposer dans son contrat une clause qui fait qu'il ne peut pas aller chez, quelqu'un, chez un concurrent direct pendant 6 mois ou 1 an. Étant donné qu'il s'agit de Ross Brawn, ils ont sans doute réussi à trouver un accord pour 1 an. Après,
c'est
ça n'empêche pas Ross Brawn de,
voilà,
sans avoir des rôles ou des fonctions officielles, de réfléchir, de,
oui,
de concevoir, de raisonner. C'est ça, c'est, ces trucs-là, c'est un peu comme la travestival. Et tu dis, mais qui surveille?
On te met en chambre froide pendant 6 mois.
Là encore, c'est quand même attendu. Ça fait, j'ai presque envie de dire, ça fait au moins 1 an qu'on en parle. Parce que c'est vrai que on l'a évoqué, oui, vous savez, mais avec tout le monde qu'ils ont déjà chez Mercedes.
Bah, les premières rumeurs de l'arrivée de Paddy Lowe datent effectivement de l'intersaison de cette année, enfin de l'année dernière. Et forcément, c'était pour remplacer Ross Brawn. Donc,
maintenant, moi, l'avenir de Ross Brawn chez. J'ai envie de poser une question un peu polémique. Est-ce vraiment une perte pour Mercedes?
De toute façon, il n'était plus directeur technique. Il n'était qu'à la... Il dirigeait l'équipe.
Mais il n'a jamais
justement. Est-ce vraiment une perte? C'est-à-dire que.
Non, mais c'est pour ça. Je rappelle.
Moi, autant j'ai beaucoup de respect pour le directeur technique qui était chez Ferrari, qui avait du talent. Autant dès qu'il est arrivé chez Honda, j'ai trouvé que dans sa manière de gérer les choses, il n'était pas très bon. Et là, clairement, enfin, quand j'en entends certains qui disent oui, Mercedes cette année, ça marchait grâce à lui. Non, ça marchait parce qu'il y a Loda et Toto Wolff qui sont arrivés, qu'il y a eu l'ambition enfin de mettre derrière du pognon, qu'il y a eu Hamilton qui est venu et que on est sorti justement du système Ross Brawn, qu'on a mis une nouvelle équipe, qu'on a engagé et mis des moyens, et que pendant 1 an, ça fait 1 an, que Ross Brawn, tout le monde le pousse vers la sortie, et que c'est un peu un pantin.
Mais c'est comme tous ceux qui disent, mais rappelez-vous, c'est grâce à Brawn qu'ils ont gagné le titre en 2009, mais non, c'est grâce à Honda qui a mis un paquet de pognon, qui a travaillé 18 mois à l'avance, qui a fait 3 voitures en soufflerie, qu'ils ont pu comparer, etc., choisir les meilleures. Enfin, on en a parlé un nombre incalculable de fois dans cette émission. Depuis l'année 2010 pour Mercedes, ça allait être difficile de facto parce que pendant 2009, Brawn n'a pas eu les moyens d'avoir de développer rapidement et efficacement une voiture. Par contre, après 2011, 2012, 2013, ça commençait à faire long, quoi. Du coup, effectivement, les capacités de Brawn a été un excellent directeur technique chez Ferrari. 5 titres, bon, j'en connais pas beaucoup qui en ont autant à leur actif, plus ceux de Benetton.
Il a aussi été un excellent propriétaire parce que, enfin, il sauve Brawn, enfin, voilà. Il n'est pas obligé de sauver l'équipe, il sauve Brawn, il prend ses responsabilités à un moment donné. En dehors de ça.
Oui. Voilà, il est rhabillé pour l'hiver.
Mais donc, vu qu'on parle notamment de lui pour McLaren Honda, ça serait dans un rôle technique.
Bah, c'est en ça qu'il excelle. Hein. Plutôt. Ouais.
C'est pour remplacer Martin Whitmarsh.
Ah oui, des communiqués McLaren lisibles.
C'est la grande question. C'est voilà, il excellait à une époque. C'est vrai qu'il a été, le Adrian Newey du début des années 2000. Enfin, il a été le Adrian Newey, on va dire comme ça. C'est-à-dire que. Il était peut-être un peu plus collectif, mais en tout cas, on le percevait plus collectif, là où on a tendance peut-être aujourd'hui à mettre tout sur le génie d'Adrian Newey, alors que finalement, Adrian Newey aujourd'hui, c'est aussi un collectif, quelqu'un qui s'est donné la parole aux autres, etc. Donc oui, c'était le Adrian Newey des années 2000. Maintenant, la question, c'est est-ce que si jamais il revient dans des fonctions techniques, est-ce qu'il sera aussi bon, tout simplement? C'est encore une fois, c'est que sur le... Moi, je prends rien pour acquis, quoi. Adrian Newey en est l'exemple. Adrian Newey, il a eu des périodes où... Je vais pas dire il était le tocard, mais c'était le mec qui avait les bonnes idées, mais qui était trop radical, qui était, enfin, on se souvient des dernières McLaren, on se souvient des premières Red Bull. C'était voilà, c'était pas forcément le génie qu'aujourd'hui on vénère. Faudra voir peut-être si Ross Brawn, de retour dans un rôle technique, plusieurs années après avoir quitté ses fonctions techniques chez Honda, même pas, il a jamais eu de fonction
chez Ferrari.
Chez Honda d'ailleurs.
Il est venu chez Ferrari.
S'il est toujours à la page, mine de rien, entre temps, les technologies changent et puis lui-même a changé. Il a adopté d'autres modes de fonctionnement. Il a été responsable, patron. Il a adopté une philosophie, une vision différente qui va peut-être l'améliorer en tant que technicien, mais qui va aussi peut-être avoir enterré le technicien pour en faire un bureaucrate, un responsable, un patron, et avoir tiré un trait définitif sur ses compétences. On ne pourra le juger que sur pièce.
Alors ensuite, une interrogation. Hein. En effet, on se pose la question... Mais est-ce que Ferrari et Renault ne commenceraient pas à tester leur V6? Et notamment, il y a cette vidéo qui a circulé, que vous avez peut-être déjà vue, d'une LaFerrari tournant à Fiorano, bizarrement à l'empattement un peu long, bizarrement avec une entrée d'air sur le toit, et bizarrement faisant le bruit d'un V6 turbo hybride.
V6, c'est pas sûr. Par contre, turbo... Déjà, la Ferrari, c'est pas sûr non plus, parce que quand on regarde, c'est plutôt l'air d'une 458.
Moi, j'ai vu la Ferrari. Le problème, c'est qu'en plus, elle est camouflée, la voiture.
Mais moi aussi, mais finalement, après, en y regardant bien, enfin, de toute façon, peu importe. Voilà, ça fait un bruit de turbo, ça c'est clair et net. On sent que c'est plus brutal qu'un moteur atmosphérique. Il y a des bruits de moteur électrique, ça c'est certain. Voilà, après... Il y a des chances quand même que ce soit le moteur de Ferrari. Après, on peut pas envisager que Ferrari ne prépare pas, par exemple, un programme de fourniture moteur en LMP. Hein. C'est pas forcément à mettre à écarter directement. Quoi.
Il faut pas exclure que ça soit autre chose, quoi. C'est pas
voilà.
Alors... c'est-à-dire que non, mais de toute façon, on sait très bien que ce moteur V6, il a aussi pour vocation de pouvoir être fourni dans d'autres championnats. On sait par exemple qu'avec ce moteur-là, on pourra entre guillemets plus facilement que ce que c'est le cas aujourd'hui, adapter les moteurs de Formule 1 sur des LMP1 en endurance. Donc, c'est créer des synergies entre les catégories. Donc, effectivement, peut-être qu'ils vont développer autre chose et peut-être que le discours officiel, c'est dire oui, on réfléchit à un projet d'endurance. Dans les faits, si c'est vraiment le V6, on sait très bien que c'est le V6 de Formule 1 et que la seule ambition derrière ces tests, c'est de tester le moteur avant l'heure. Après, on peut pas leur reprocher. De toute façon, les quatre sont des motoristes qui ont à leur disposition des voitures, qui ont à leur disposition des moyens et des circuits. Et enfin, ça me surprendrait pas que Mercedes aussi fasse des essais. On parle de Renault qui ferait des essais avec la Formule Renault 3.5. Voilà, donc c'est compréhensible. Ce qui est interdit, c'est de faire des essais avec la voiture 2014. Bon, oui. Pour le moment, la voiture, elle n'existe pas. Ils peuvent essayer le moteur comme ils veulent.
Il faut le fiabiliser. Donc plutôt, ils le mettent en piste. De toute façon, Ferrari avait dit qu'il montrerait le son du moteur début décembre. Donc on est dedans.
Ah oui, c'est la bonne fenêtre.
Et d'ailleurs, si c'est le V6 Ferrari, c'est un peu scary movie cette vidéo. C'est-à-dire que on a le début où on a un peu peur. Et sur la toute fin, le troisième passage de la voiture devant la caméra, là on sent que ils ont mis les chevaux, qu'ils ont lâché le moteur et le bruit est finalement assez agréable. La montée en régime est très agréable une fois qu'on retire un peu ce souffle de turbo et d'électrique qu'il y a derrière. Mais la montée est quand même assez brutale. On a un bruit qui est plutôt sympa, je trouve.
Moi, ça va. De toute façon, depuis que j'ai vu la vidéo du premier roulage de la Formule E, je me dis que ça va l'an prochain. C'est à voir, hein. Avec Luca Di Grassi, ouais, ça marche super bien. Ouais, mais ta bagnole, c'est un aspirateur. Mais bon.
C'est vrai. Tu sais, les voitures téléguidées que t'avais quand t'étais gamin, ça fait le même bruit.
Ça fait le même bruit. Oui.
Un peu plus fort, mais globalement, c'est le même genre de bruit. Ouais. C'est pas très doux à l'oreille.
Sinon, là encore, on va se tourner vers 2014. Et on a eu des propositions du fameux groupe stratégique, hein, qui vont être discutées, qui peut-être vont être passées. Alors, il y a eu, j'ai envie de dire, du bien et du moins bien.
Il y a surtout eu du recyclage. Ça se voit que la F1
devient verte. Oui, c'est vrai, parce que c'est des trucs qui c'est pas des nouveautés en soi. Hein.
Enfin, verte passe dans tous les domaines, mais on va peut-être en reparler.
Donc, la première qui est sortie, je crois, hein, c'est donc l'idée que peut-être, dès l'an prochain, hein, parce qu'après tout, ça pourrait être fait rapidement, peut-être que les voitures, ou plutôt les pilotes, auraient des numéros fixes, hein. Donc le 1 serait quand même réservé aux champions du monde en titre, hein, mais le pilote aurait le choix de choisir son numéro personnel ou le numéro 1, et donc les pilotes garderaient leur numéro, quelle que soit leur écurie, toute leur carrière.
Ça, je crois qu'on y a le droit il y a un ou deux ans.
Oui.
Voilà. Puis ça se fait déjà dans d'autres sports.
Ça enfin, se fait dans d'autres, notamment en
moto,
GP, dans les disciplines américaines.
Ouais. Mm.
Sachant que dans les disciplines américaines, c'est plus attaché aux écuries qu'aux pilotes. Là, c'est vraiment un truc. Le pilote, quand il arrive, j'avais cru lire que son numéro de compétiteur serait inscrit sur sa super licence.
Mais ça s'est même fait, de facto, il y a quelques années en Formule 1, puisque le système faisait qu'il n'y avait que l'écurie championne. Qui changeait les numéros pour prendre les numéros 1 et 2, ce qui fait que pendant des années, c'est la fameuse période de disette Ferrari. Ferrari s'est retrouvé avec le numéro 27 et le numéro 28, légendaire numéro 27, qu'ils ont gardé très longtemps parce qu'ils n'avaient jamais gagné de titre. Je crois qu'ils avaient repris les chiffres. C'est-à-dire que tu reprenais les chiffres de l'équipe qui te battait au championnat, ils avaient été battus, je crois, par. Ça devait être Williams ou je ne sais plus quoi qui avait été champion.
Oui, c'était Williams en 80.
Ils avaient récupéré le 27 et le 28 qui étaient les chiffres de Williams et ils les avaient gardés un paquet de temps. Jusqu'à ce qu'ils redeviennent champions, même pas parce que
non, c'est jusqu'à 96 quand ils ont changé
le système, voilà.
Et que Schumacher est venu avec le.
Donc oui, pourquoi pas. Apparemment, ça s'accompagnerait aussi d'un affichage plus gros sur les voitures parce que c'est pas tout de changer les numéros, mais si on les voit pas sur les voitures, ça ne sert à rien.
Ouais, mais c'est là que chaud là-dessus quand même. Hein. Parce que plus de place pour le numéro, moins de place pour les sponsors. Alors, pour une des justifications du numéro fixe, c'est purement marketing. Hein. C'est comme ça que tu peux acheter la casquette.
Clairement, c'est du pur marketing.
C'est pas du tout pour revenir au bon vieux temps du numéro 27. Hein.
Alors, j'ai lu aussi que, vu que c'est purement marketing et esthétique, la FIA serait pas contre. Mais alors, vous allez me confirmer la chose ou pas, il faudrait qu'il y ait une modification réglementaire, notamment pour les cas d'égalité en qualif.
Ah oui.
Parce qu'il y a un des critères, donc ce ne doit pas être le premier, hein, mais un des critères pour séparer deux pilotes au même temps, alors ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est dans le règlement, c'est les numéros.
C'est arrivé, me semble-t-il.
C'est même peut-être même déjà arrivé. Donc vous imaginez bien que le type qui prend le numéro 99, il est un peu dans la merde.
Carl Edward.
Donc il faudrait.
Carl Edward, c'est un peu le numéro 99, même si.
Voilà. Donc il faudrait cette petite modification réglementaire pour ne pas désavantager ceux qui prendraient des gros numéros.
Bah, surtout qu'en fait, les pilotes n'auraient pas forcément le choix du numéro. On a parlé d'une cérémonie avec tirage au sort des compétitions de football, où la presse serait invitée, etc., pour attribuer les numéros aux différents pilotes.
Mais ça, c'est clairement inspiré de la draft. Enfin, voilà, c'est un truc que tu pourrais faire comme tu voudrais, mais tu organises une cérémonie pour donner du spectacle et faire un événement d'un truc qui n'en est pas un. Enfin, quand tu regardes la draft dans les systèmes de draft dans les sports américains, on le fait un show qui dure plusieurs heures, un show à l'américaine, juste parce que les mecs recrutent des joueurs. T'as envie de dire, mais
attends, parle pas de ça, parce qu'on va peut-être en évoquer ça un peu plus tard dans l'émission.
Ah,
oui. Non, mais en plus, oui. Pendant ce temps-là, on fait pas de. Aucun diffuseur de la F1 ne retransmet la cérémonie officielle de la FIA en fin de saison. Donc, on voit pas le champion être couronné. On verra pas, je pense qu'on va en reparler si ça passe, le fameux trophée de la pole du poleman être attribué. Donc, à partir du moment-là, autant déjà faire de ça un événement FIA. Partagé avec la FOM et tout, que les diffuseurs ont le droit de diffuser. Parce que pour l'instant, la F1 ne sait pas récompenser ses champions. On n'a jamais vu de cérémonie de remise de trophées aux champions, ne serait-ce qu'en fin de saison.
Elles existent, mais elles ne sont pas diffusées à la télé.
Voilà, c'est ça. Je crois que c'est Eurosport qui retransmet tous les ans le gala FIA. Mais Eurosport, ils ne diffusent plus la Formule 1.
Les autosports, tu as envie de te dire, est-ce qu'ils ont pas mieux à faire en ce moment? Enfin, quand tu vois les sujets abordés par le groupe stratégique,
non, oui, mais
tu te dis si c'est ça les priorités de la Formule 1 en ce moment.
Donc en effet,
alors qu'on a des équipes qui sont au bord de la banqueroute, etc. Te dire que la priorité c'est de mettre des numéros, de donner un trophée au plus grand poleman de la saison, de ce qui d'ailleurs change pas forcément beaucoup de choses.
Justement, ce trophée du poleman, vous trouvez ça sert à rien,
c'est inutile.
Ouais, je préférerais qu'on donne un point au poleman pour véritablement redonner un enjeu à la position que de leur donner une pseudo récompense en chocolat à la fin de l'année. Si c'est vraiment l'idée, c'est de revaloriser Poleman, donnons 3 points au Poleman et puis voilà, basta quoi. Ça, au moins ça aura une influence, pas sur une petite couronne, la mort moineux qu'on donnera à la fin de saison, mais sur le titre. Tu pourras gagner un titre en réalisant des pole positions, tu pourras gagner des places, ça aura véritablement un enjeu. Là ça apporte strictement rien quoi, c'est comme le trophée de Fattest Lap DHL qui récompense le mec des tours les plus rapides. Alors déjà que les tours les plus rapides, je pense que Gusmi va être d'accord, ça veut rien dire, mais c'est quand même le trophée qui existe depuis des années et dont on n'a rien à foutre. Faut être honnête.
Non mais déjà pour être magnanime avec le groupe stratégique, ils ont quand même discuté de solutions d'avenir comme les 8 équipes de 3 voitures. Bon ça on sait pas où ça en est vraiment. Mais ce qui est le pire dans cette histoire de groupe stratégique, c'est que j'ai lu sur Autosport il y a 2 ou 3 jours je crois, que le Conseil mondial est le 5 ou le 6, donc dans 2 ou 3 jours encore, et qu'ils ont ajourné leur meeting le 9 décembre. C'est-à-dire que le Conseil mondial du sport automobile va devoir statuer sur des propositions, soit qui n'auront pas été encore approuvées par le groupe stratégique et donc par la commission F1, soit ils ne pourront pas statuer et on devra attendre le prochain Conseil mondial. Donc, c'est-à-dire que là, on est un peu bloqué alors que les prises de décision doivent se faire de manière imminente là, dans les jours qui suivent.
Mais enfin, sincèrement, en plus, quand tu regardes un peu les sujets qu'il y a autour... T'as quand même un peu l'impression que c'est des sujets qui sont jetés comme des pavés dans la mare pour dire on réfléchit, on est prêt à des solutions, mais qu'en fait le but c'est de proposer un truc invraisemblable que personne n'acceptera et qu'il n'y aura jamais d'accord pour justement bloquer le système. L'idée des 3 voitures, on sait très bien que si l'idée des 3 voitures est avancée, c'est parce que personne ne veut le concept des voitures clientes. Et quand on va commencer, parce que pour moi c'est balancé comme une alternative, mais quand on va commencer à y réfléchir, on arrivera à une situation de blocage parce que personne ne sera d'accord. On devine déjà qu'il y a quelques équipes qui ne seront pas d'accord. Et donc du coup, on va proposer une autre idée. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est un peu ce fonctionnement. Si on était dans un parlement, on appellerait ça de l'obstruction parlementaire, c'est un peu, voilà, j'utilise tout ce qui est à ma disposition, on fait vivre les institutions, mais en fait, les institutions, c'est une coquille vide qui sert à rien, parce que on aborde des sujets qui sont pas véritablement concrets. Enfin, je suis désolé, mais la solution 3 voitures pour 8 équipes, ça me semble pas véritablement répondre à des enjeux qui sont actuels, qui sont la survie d'équipes. C'est-à-dire que comment tu peux envisager de discuter sérieusement de la disparition de 3 équipes alors que les équipes elles menacent déjà de disparaître.
C'est pas que 3.
C'est à la limite, ça pourrait être mis en place si tu te retrouves qu'avec 8 équipes, mais enfin, tu t'imagines mettre en place un système, discuter avec les équipes où tout le monde se met d'accord en disant alors maintenant on va tirer à courte paille pour savoir qui se retire ou qui fusionne. C'est juste encore une proposition qui bloque le système, qui fait croire qu'il y a du débat, mais qu'il n'y en a pas. Et c'est le cas, là on parlait tout à l'heure des numéros de voitures, on y a eu le droit les années précédentes et à chaque fois ça bloque, à chaque fois ça avance pas, on fait du débat et il n'y a strictement rien qui est foutu derrière.
Et sinon, l'autre pavé dans la mare qui a été évoqué, alors c'est, vous pensiez qu'un arrêt obligatoire, c'était pas assez? Eh bien, mettons-en 2.
Alors là, c'est un peu différent parce que l'idée avait été proposée par Pirelli et c'est repris par Pirelli. Mmh. Alors après, à voir. C'est...
Non, je suis quand même sceptique, moi, là-dessus.
Sceptique, en plus, ça part. Bon, ils vont a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, faire des pneus plus durs. Alors, est-ce qu'ils seront extrêmement plus durs ou un peu plus durs? Ça, on ne sait pas encore trop.
Mais c'est pour ça qu'ils veulent faire 2 arrêts, justement. C'est parce qu'on sait qu'ils seront plus durs, c'est pour que les équipes fassent pas toute la course avec les pneus, quoi. Enfin, même si aujourd'hui, ils doivent faire un arrêt parce qu'ils doivent passer les pneus durs et les pneus tendres, ils auront aucun problème de dégradation, donc ils veulent rajouter un peu de suspense en faisant un arrêt en plus, sauf que si les pneus tiennent, ils vont tous faire l'arrêt au même moment, donc
ça
va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le règlement actuel... tu peux soit faire un arrêt au début, soit faire un arrêt à la fin. Si tu as des pneus super durs, ça ne te pénalise pas. Là, en imposant de faire 2 arrêts, quitte à laisser les gens choisir, ils vont quand même à un moment donné être obligés de faire un arrêt au début, puis quand même de trouver l'équilibre de performance, parce que tu peux pas faire les deux arrêts en même temps, ou à un moment donné il faut bien que tu les cales les deux arrêts. Je pense surtout de l'idée dans la proposition qui était faite par Pirelli, c'était surtout de dire donnez-nous un dispositif dans le règlement qui impose aux équipes de faire deux arrêts, nous on fera des pneus qui feront l'équivalent de deux arrêts, mais au moins on pourra tout ne reposera pas sur nous et on pourra se ménager une marge de sécurité dans la conception des pneus en prévoyant des pneus qui sont un peu plus durs. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours terrible, c'est quand on a ce débat sur les pneus, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que si Pirelli fait des pneus durs, ils ont dit qu'ils feraient des pneus durs l'année prochaine, tout de suite on revit le cauchemar de la saison avec Bridgestone qui faisait des pneus qui duraient 72 tours à Monaco, mais pas forcément, c'est plus dur pour eux, ça veut peut-être dire on va faire 50 tours maximum avec. 50 tours c'est déjà moins dur que ce qu'était Bridgestone à une certaine époque.
Parce que normalement, d'après ce que j'ai lu, les pneus durs ne devraient pas pouvoir faire plus de 50% de la course, et les pneus composés tendres ne feraient pas plus de 30. Ce qui obligerait effectivement à faire deux arrêts.
Mais je pense que même Pirelli aujourd'hui, c'est surtout une proposition qu'ils ont fait pour rejeter à la FIA, aux équipes, à la FOM, la responsabilité aussi de l'échec de cette saison côté pneumatique. Tu leur mettrais une règle, clairement, tu écrirais dans le règlement, on demande aux manufacturiers de faire des pneus qui permettent d'assurer deux essais. Pirelli y prendrait, dans la mesure où derrière, il pourrait dire, mais écoutez, c'est écrit dans le règlement, on ne fait qu'appliquer le règlement. Donc là, il pourrait officiellement se défausser.
On ne peut pas reprocher à Pirelli de ne pas avoir fait des propositions avant, hein, ça c'est clair.
Ils en ont fait un paquet.
Oui.
C'est quasiment aujourd'hui, c'est la seule force véritable de proposition.
De proposition.
Mais des propositions, même s'il y a des idées concrètes, les trois voitures pour 8 équipes, c'est une proposition qui mérite d'être étudiée dans l'optique peut-être d'une application où vraiment il y aurait des fusions, il y aurait des synergies qui poussent vers ce système-là. Mais globalement, quand même pas mal des idées qu'on balance en ce moment, tu sais très bien quand tu les lis, tu dis, mais oui, mais il y a des équipes qui vont s'y opposer, ça passera jamais, parce qu'il faut l'unanimité ou parce que il y a des
70% je crois dans cette commission que... je sais pas quoi ouais, je crois que c'est 70% dans tous les niveaux de décision, que ce soit la commission stratégique, puis après la commission F1, et puis après le Conseil mondial du sport auto.
En sachant que cela n'inclut pas la pression, comme on peut avoir parfois, de se dire, sans même que tu ailles aller à voter, s'il y a une équipe, genre Ferrari, qui n'est pas d'accord, qui est dans les 30%, mais que la décision risque de passer et qu'elle menace de quitter la Formule 1, oui. Tu te doutes très bien qu'il va y avoir des tractations entre Bernie Ecclestone et compagnie qui vont faire que, le truc va être modifié ou remis au placard. Donc, c'est toujours, il n'y a aucun système parfait de décision. Sinon, on vivrait tous en France, dans un pays merveilleux où la politique est géniale. Ouais, je suis Picard, donc en ce moment je réfléchis beaucoup sur le monde qui m'entoure.
Sur les surgelés aussi.
Oui.
Oui. Et justement, on l'a un petit peu évoqué, hein, on a parlé de fusion, puisque c'est vrai que cette semaine, et ça a été confirmé de la part de Williams, on sait que Marussia a eu l'intention, a proposé en tout cas à Williams de fusionner leurs équipes. Ça ne s'est pas fait. En tout cas, de la part de chez Williams, c'était non. Et apparemment, le projet de Marussia n'est pas forcément complètement éteint, puisque maintenant, il parlerait avec Sauber.
Ou ça paraît beaucoup plus logique.
Dans cette idée, justement, de part russe de chez Sauber, c'est vrai que, après tout, ça paraît plus logique.
Après, fusion, c'est pas forcément un mot qui est bien choisi. Parce que c'est l'intention, oui, mais voilà, c'est comme la fameuse fusion entre le Champ Car et l'IndyCar, quoi. Enfin, c'est l'IndyCar qui a racheté le Champ Car et le Champ Car a fermé. Là, c'est pareil, c'est Marussia qui fermerait boutique et qui viendrait, et le propriétaire qui viendrait mettre ses billes chez Sauber pour avoir une équipe un peu plus solide financièrement.
Ouais, parce que, en tout cas, pour Williams, ils ont proposé, en fait, de racheter les parts de Toto Wolff qui doit avoir 11 ou 12% de l'équipe.
Ouais.
Quitte après à rebadger le moteur Ferrari, Sauber Marussia, ça peut le faire. Mm. Même si c'est con, parce que Marussia, c'est quand même je sais même plus si on doit parler au passé, au présent ou au futur. C'est un constructeur de voitures électriques. Et il me semble que c'est des supercars électriques, Marussia.
Pas sûr que ce soit des électriques, moi.
Ouais, ça m'étonne.
Des supercars, oui, mais électriques, je suis pas sûr.
Même supercars, ça m'étonne déjà.
Non, mais tu sais, il s'appelait constructeur avant même d'avoir
conduit
sa voiture, donc.
Après, Bah, ça aurait du sens, effectivement, vu le contexte économique. On a deux écuries qui sont en difficulté financière. Donc voilà, on est plus fort ensemble que séparés. Hein. Et je crois qu'il y aurait des liens entre les investisseurs russes de chez Sauber et le patron de chez Marussia. Donc effectivement, c'est presque étonnant à la limite qu'ils aient d'abord été vers Williams. Maintenant, avec Sauber, ça serait effectivement pas totalement stupide comme idée. Donc,
Et j'ai rien dit, hein, c'est pas des voitures électriques.
Bah, après, pourquoi Williams? Sans doute parce qu'ils se sont dit que c'était plus pertinent de faire ça avec une équipe moins bien classée. Donc, ils se posaient peut-être moins bien économiquement. Puis, c'est vrai qu'il y a ces actions de la part de Toto Wolff qui est maintenant chez Mercedes. Donc, tu te dis que, bon, il aura peut-être envie de les vendre, quoi.
C'est effectivement, à mon avis, ça qui a joué sur l'approche. Ouais.
Et puis, surtout, Williams a une position au groupe stratégique de la F1 que n'a pas Sauber. Ils ont un sixième du pouvoir dans ce groupe stratégique, alors que Sauber n'est pas représenté, n'y serait représenté que si elle est la première des écuries qui n'y sont pas au championnat.
Et je crois qu'il faut se rappeler, ça avait été dévoilé, c'est au cours de la dernière intersaison, mais là ça avait été avec Caterham, je crois qu'ils avaient envisagé peut-être quelque chose et que ça s'était pas fait non plus.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces projets de fusion, on en parle un petit peu à la fin de chaque année, quoi. Enfin, surtout ces dernières années. Là, effectivement, on parle de projet de fusion, qu'il y ait des discussions, des approches, ça peut se comprendre aussi qu'il y ait la volonté d'une équipe de se dire on met du pognon fou là, pour mener une équipe, si on le mettait ailleurs, on aurait peut-être de meilleurs résultats ou de meilleures retombées sur notre investissement. Autant le faire. C'est ce que font les sponsors. Hein. Les sponsors, ils vont taper là où il y a le plus haut possible et là où il y a le plus de rentabilité pour eux. Mais on en parle un peu tout le temps et sans véritablement... là, il y a des faits, il y a des déclarations, mais c'est pas peut-être pas forcément dans l'immédiat, c'est peut-être du long terme. Ça veut pas forcément dire la disparition de Marussia qui peut très bien être rachetée. Encore une fois, on est dans des informations qui sont difficilement vérifiables et que j'ai quand même beaucoup de mal à concrétiser, à imaginer dans l'immédiat. Je n'imagine pas une fusion tout de suite Marussia-Sauber. Je pense que ça se prépare un peu à l'avance. Ou alors vraiment, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Gus, c'est véritablement Marussia qui met la clé sous la porte. Tout est soldé, tout est vendu et voilà, c'est liquidation. Et là, les mecs, ils se retrouvent avec leur pognon et ils vont l'investir ailleurs. C'est pour ça que le mot fusion est très mal choisi parce que une fusion, ça se prépare, c'est un travail. Il faut réfléchir à comment on rassemble les bureaux d'études, les ingénieurs, les équipes, comment on transfère les contrats. Là, dans mon nouveau travail, je suis un peu confronté à ça. C'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire une entité avec deux entités différentes à la base. Ça prend du temps, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de fusion dans l'immédiat. Si fusion doit y avoir, c'est d'ici peut-être un ou deux ans. Là, pour le moment, c'est une absorption, c'est une OPA. Mm. L'OPA, visiblement, pour le moment, c'est le plus faible qui veut la faire. Donc...
Sinon, Dino, tu as cité comme actu, tu t'es intéressé au Grand Prix, au circuit de Bahreïn. Qui donc devrait accueillir les essais Pirelli au mois de décembre. Et aussi, on l'a appris, hein, pour fêter leur anniversaire, même si on se doute bien que ça ne va pas être que l'an prochain, va passer en nocturne.
Ouais.
D'ailleurs, ils ont déjà roulé en nocturne ce week-end pour le WEC.
Alors, faut qui ne servait à rien puisque les voitures en départ.
Non, mais surtout, voilà, c'est qu'il faut préciser quand même, c'est pour ceux qui auraient vu les images où l'éclairage est catastrophique, c'est qu'ils ont testé leur dispositif, mais c'est pas tout le dispositif complet. Ils ont testé sur des portions, ils ont mis des poteaux avec des lampadaires, mais évidemment, ça va nécessiter d'autres travaux. Là, ça l'imposait pas dans la mesure, effectivement, où les voitures ont des phares. Donc, en termes de visibilité, ça apporte plus que ça, véritablement, ça gêne. Par contre, pour la F1, il y aura véritablement un éclairage qui sera conçu, qui sera plus développé que ce qu'il y a actuellement.
Oui, parce que là, il y a des zones d'ombre encore hein, sur le circuit.
Oui, voilà.
J'ai un peu regardé.
C'est pour ça que je tiens à me préciser, c'est que si vous regardez les photos, il y a des virages qui sont complètement noirs. Les lignes droites sont éclairées, mais les virages sont noirs. C'est parce que pour le moment, ils sont encore dans la phase de test en termes d'équipement et de réglage. Après, évidemment, il suffit juste de construire les poteaux et de mettre les spots. Mais bon, déjà, ils voulaient faire un test et profiter un peu de l'opportunité de la dernière manche du championnat du monde d'endurance pour tester ça. Après, moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était c'est les essais Pirelli. Parce que voilà, la Pirelli a proposé de faire des essais à tout le monde, apparemment.
Oui.
Trois équipes auraient accepté. Ils se murmurent que ce serait Ferrari, Mercedes et Red Bull. Voilà, de rouler avec des voitures donc 2013 à Bahreïn les 17, 18 et 19 décembre prochain. Voilà, donc je pense quand même que c'est trop tard, que encore une fois les équipes seraient trop tard, mais c'est quand même mieux que les années précédentes.
Avec enfin les, parce que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est les top teams de chaque moteur.
Est-ce qu'ils feront pas rouler une LaFerrari, une Renault pour 3.5 et je sais pas, une Mercedes de DTM,
ouais,
une MotoGP pour tester les pneus.
On n'est pas chez Kumo ici.
Hein. D'ailleurs, je trouve au Brésil, la voiture médicale avait... c'était peut-être la safety car. Je sais pas, à un moment donné, on a vu une voiture. C'était au Brésil ou aux États-Unis.
Oui.
Elle faisait un drôle de bruit. C'est peut-être que Mercedes teste sur la voiture médicale le V6 turbo de l'année prochaine.
C'est pour ça qu'elle était si rapide. Elle avait 100 chevaux de plus.
Non, moi, ce qui m'étonne le plus sur cette histoire de Bahreïn, pour revenir sérieux deux secondes, c'est qu'il y a deux ans, on avait une équipe comme Force India qui avait loupé des essais libres 2 pour rentrer le plus vite au circuit. Et là, ils vont faire ça de nuit, ils vont rentrer tous très tard et ça ne va gêner absolument personne. Ça, c'est quand même incroyable comme retournement de situation depuis deux ans à Bahreïn, quoi. Depuis deux, trois ans même.
Ah, mais écoute, peut-être que Bernie a eu des assurances de la part du roi du Bahreïn sur la situation dans son pays. On ne sait pas, tu sais.
Mais là,
on n'en parle plus trop depuis quelques mois.
Ça fait quand même 3 jours d'essai là en décembre, plus 8 jours d'essai cet hiver, puisque je crois qu'ils vont organiser 2 séances d'essai à Bahreïn après Jerez.
Ouais.
Ensuite, après, tu as le Grand Prix. C'est, cette année, c'est quasiment le championnat du Bahreïn de Formule 1. Bon, tu diras, ça va quand même nous changer. Et c'est pas plus mal de Barcelone où il fait froid et où il pleut. Bon.
Oh, pas tout le temps. Ouais,
ça va peut-être rendre le Grand Prix d'Espagne intéressant.
Oui, c'est vrai.
Mais ils vont tous abandonner au bout de 3 tours parce que les moteurs tiendront pas. Moi, j'aime ce catastrophisme ambiant. Quand tu regardes Brandon et tout, dit ouais, non, mais ça va être un cataclysme le début de saison.
Les courses vont être intéressantes, entre guillemets, sous-entendu. Ouais,
ils vont tous marquer 0 pointe. Ouais.
Mais quoi que techniquement, c'est les derniers à abandonner qui vont marquer des points.
Écoute, si tout le monde abandonne, sauf s'ils font que 3 tours. S'ils font pas 75% de la distance, ils ont pas de points.
Tu sais, Marussia a dit qu'ils voulaient passer en Q2 l'an prochain, marquer leur premier point. En fait, c'est ça le truc, c'est que comme ils vont faire une voiture qui sera super lente, mais super fiable, bingo.
Mais c'est ce qu'ils ont fait cette année. Hein.
Bah oui.
Quand tu regardes Chilton qui a réussi à finir tous les Grands Prix, c'est déjà un peu ce qu'ils ont fait cette année. Ce qu'il a d'ailleurs pas réussi à faire Qatar, mais ce qui a perdu Qatar sur le début de saison, où ils ont été, non seulement ils ont roulé avec la voiture l'an dernier, mais en plus la voiture n'était pas exceptionnellement fiable. Ils ont enregistré pas mal d'abandons au début de saison. Et c'est comme ça que Marussia en a profité pour s'emparer de la 13e place avec Bianchi en Malaisie, je crois. Et finir finalement 10e. Ce qui ne change rien, mais...
Ah ouais, mais bon, voilà...
Ça change rien pour l'instant.
Voilà. Il faut expliquer qu'on a beaucoup parlé de l'enjeu de la 10e place. D'après les informations qu'on peut avoir, citées par Autosport, Pitpass et compagnie, en fait, la 10e place et la 11e place, cette année, valaient la même chose. C'est-à-dire 10 millions. Avec les accords qui avaient été signés par Bernie Ecclestone avec Marussia, quoi qu'il arrive, Caterham et Marussia étaient assurés cette année d'avoir 10 millions. Maintenant, c'est surtout l'année prochaine, dans la mesure où l'année prochaine, avec les nouveaux accords Concorde, etc., c'est... l'équipe qui finira 10e, si elle a déjà fini 10e lors des deux saisons précédentes, lors de l'une des deux saisons précédentes,
voilà,
elle n'empochera pas 10 millions, mais 30 millions. Donc, là,
c'est deux années sur trois.
Voilà, il y a quand même 20 millions à se mettre dans la poche.
Sachant que Caterham, l'an dernier a fini 10e.
S'ils avaient fini 10e cette année, ils étaient déjà assurés l'année prochaine, en finissant 10e, d'avoir 30 millions. Donc, c'était une double victoire pour Caterham. Cette année, ils ne gagnaient rien par rapport à Marussia, mais l'année prochaine, ils pouvaient gagner 30 millions. Là,
on n'est toujours pas d'accord.
En partout, la balle au centre.
Parce que là, ils auront 30 millions l'année prochaine. Là, en début de saison, ils vont les avoir. Parce qu'ils ont fait deuxième, dans les accords Concorde rentrent en valeur pour 2014. Du coup, tu prends les deux dernières saisons. 2013, c'est pas bon. Par contre, 2012 et 2011, ils ont fait. Ils ont fait dixième. Du coup, ils auront.
C'est vrai. Oui.
Par contre, l'année prochaine, si Marussia finit deuxième, qui seront les deux derniers. Par contre, ce seront eux qui seront éligibles à ce paiement auquel ils n'auraient pas eu droit de toute façon l'année prochaine.
C'est-à-dire que va y avoir un combat de titans entre Caterham et Marussia, parce que l'une des deux aura les 30 millions.
Mais le truc, c'est que les accords Concorde ne sont valables qu'à partir l'année prochaine.
Oui, donc justement, ils se baseront sur les résultats de l'année d'avant. Enfin, l'accord Concorde de 2014.
Oui, mais là, on parle des gains de cette année. L'année prochaine, si Caterham termine 10e l'année prochaine, ils empocheront 30 millions.
Qu'ils auront déjà eu l'année prochaine.
Puisque les accords
pour Concorde. Pour les résultats de 2013.
Mais parce que les accords Concorde s'appliquent à partir de l'an prochain, mais on prend quand même en compte les années précédentes. Partent pas tous de zéro à partir de l'an prochain.
Sinon, ils donnent zéro à chaque fois au début.
Mais cette année, les revenus sont toujours répartis en fonction des précédents accords.
Oui, cette année, mais en 2014,
oui.
Non.
Mais oui, oui, donc Caterham n'a pas encore eu 30 millions.
On est bien d'accord.
Début 2014, Caterham. Oui, début 2014, sur les résultats de 2013 et de 2012 et de 2011.
Je suis pas sûr de l'interprétation.
Non, on fait les comptes en fin d'année. Donc fin 2014, si Caterham finit 10e, en fonction des résultats effectivement des années précédentes, comme ils auront déjà terminé deux fois 10e, là ils auront 30 millions. Pareil pour Marussia s'ils terminent...
Là cette année, même s'ils sont payés en 2014, ça reste le résultat comptable de la saison 2013, donc t'es payé par rapport à 2013, c'est comme toi tes impôts.
Moi, j'appelle Bernie, moi, tout de suite.
Bernie, êtes-vous prêt à faire un geste?
Non, c'est pas possible. Tu peux pas demander ça, Bernie.
Il va te faire un doigt.
Mais Julien Courbet le peut. Il faudrait qu'on demande à Julien Courbet d'appeler Bernie. Ah, faut qu'on invite Julien Courbet et qu'il appelle Bernie dans cette émission. C'est le défi 2014.
Ouais.
Si jamais on est là.
Ne tisse pas trop. C'était tout pour ces actualités, parce qu'on a plus ou moins cité toutes les mêmes, hein, donc il n'y avait pas pléthore d'actualités.
On va aller se coucher, merci, au revoir.
Non, allez, on va faire la petite pause musicale, et puis après on passera notamment au sondage.
Ouais.
Et cette semaine, je dois vous avouer un truc, c'est le dernier, et savez, parce que vous allez tous mourir.
C'est la fin du monde, oui. C'est le 21 décembre 2013.
Car j'ai décidé pour ce dernier SAV de rendre hommage à un grand artiste. Vous savez, on a un grand...
C'est que la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit « Oh là, j'ai plus d'idées pour les... les chansons et compagnie. » Et là, je m'inquiète.
Mais non, mais en plus, vous savez un peu, parce que je crois qu'on en a un petit peu parlé.
Ouais.
Oui. Du lourd.
Ah bon ?
Du très très lourd.
Parce que bon, hein... Vous savez, d'ailleurs, c'est un peu une tradition chez nous. Nous avons beaucoup d'artistes qui viennent du Québec. Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, Daniel Lavoie, ces grands artistes. Ah bon, ils viennent tous du Québec. Oui, c'est quelque chose d'important en France. Et là, quand même, on va vous parler d'un artiste qui a vendu...
deux albums.
À peu près ! Deux albums. Franchement, on pourrait se dire, ouais, on peut trouver toutes les musiques qu'on veut sur Internet. Mais quand on a vendu que deux albums, c'est beaucoup plus dur de trouver une chanson. Avec cette réponse, vous savez, c'est bizarre, Jacques Villeneuve, quand il parle à la télé, il parle sans accent québécois. C'est étonnant par rapport aux autres. Est-ce qu'il parle comme ça? Et non, en fait, il fait exprès de parler comme ça pour chez nous. Car oui.
Même si vous avez pas envie, même si vous fumez pas, vous aurez envie de fumer après cette chanson.
Je pense, oui. Vous allez voir, la musique, les paroles, c'est magnifique.
Je ne donnerai jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Je ne rendrai jamais assez service, je ne tiendrai jamais assez de porte. Je sais, on n'avait pas toujours les quatre pieds sur terre, mais avoue que notre courte histoire en aura déplacé de l'air. T'en vas pas maintenant, en quelques temps pour y penser. Après on partira, ce sera comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser pour le souvenir, pour le passé, yeah. Accepterais-tu de m'épouser? Je nous imaginais tellement ensemble jusqu'à la fin du monde. J'aurais dû profiter de chaque instant, j'aurais dû filmer chaque seconde. Mais je crois que je m'y étais habitué un peu avec le temps. Je l'avoue, j'y ai pensé moi aussi, un jour à foutre le camp. Non, le temps va pas maintenant, prends quelques temps pour y penser. Après on partira, tu seras comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser? Comme tu le voulais, ce sera parfait. Dans la chapelle au bout de l'île de Saint-Michel, quand on passait devant, est-ce que tu te rappelles? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser?
C'était quand même d'une rare.
Oui, bah, fallait bien finir la saison quand même.
En beauté.
Oui. Messieurs, je vous propose de passer aux citations.
Oui.
Oh, oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y.
Ah.
Alors moi, j'ai une citation qui n'est pas une citation.
Ça compte pas.
Ça compte pas.
C'est les... c'est l'extrait d'un rapport qui est le rapport I Trust Sport.
Ah non, putain. Moi, j'ai une citation moi en rapport avec ça.
Mais qui est donc un court extrait. Le rapport est assez long et assez instructif. Donc c'est un rapport qui c'est un audit qui a été demandé par David Ward et qui audite la FIA. Et on sait par exemple que les notes sont enfin voilà, c'est un audit qui a déjà été fait sur d'autres instances comme le CIO ou comme la FIFA. La méthode a été appliquée sur la FIA. Et il y a ce petit passage que moi j'ai trouvé très savoureux en lisant le rapport, qui est
j'imagine.
La FIA ne mène pas une politique interne de responsabilité environnementale. C'est-à-dire que la FIA nous a pondu une réglementation moteur et nous pond il faut être plus vert et compagnie. Et quand on les audite, on se rend compte que à l'intérieur, il n'y a aucune politique environnementale.
Hein. Ça veut dire quand même, ils nous font subir des trucs comme la Formule E, hein. Et eux, de leur côté, hein, place de la Concorde, ils font que dalle.
Oh bah, ça tombe bien qu'on n'ait pas le même regard là-dessus, parce que moi, c'est pas du tout ça qui m'a choqué. Ma citation, c'est une citation de David Ward, qui déclare justement en rapport avec ce rapport. Il est décevant que la FIA soit notée sous le CIO et la FIFA, étant donné sa responsabilité envers la F1, qui est avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, qui sont avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde les sports les plus populaires au monde. Moi, ce qui m'a choqué dans cette étude, qui a été réalisée par, je crois, l'Institut des Hautes Études en administration publique, c'est un truc suisse, c'est qu'elle est commissionnée par un certain David Ward. Sur la base.
S'appuie sur des éléments fournis par David Ward.
Mais c'est ça, sur la base de documents officiels du site de la FIA et un regard interne de David Ward. Donc, une étude qui se dit indépendante, je suis désolé, à partir du moment où t'as qu'une seule source d'information, bah, c'est une étude qui est tout de suite dirigée, quoi. Enfin, c'est plus ça qui m'a choqué que le.
C'est-à-dire que dans son truc, il y a juste une couille, c'est qu'il n'est pas candidat. C'est-à-dire qu'il aurait été candidat. Oh tiens, comme par hasard, il y a le rapport qui sort.
Je pense que c'est un truc duquel il se serait servi si sa candidature avait pu être acceptée, mais du coup, il a sorti ça juste pour justifier le fait que, parce que dedans, il parle justement, le rapport parle du processus d'élection du président de la FIA qui ne serait pas. Enfin,
on peut peut-être donner justement, alors y a plusieurs thèmes, chacun est noté sur 4, On va pas s'attarder sur le processus, mais bon, c'est comme ça que vous aurez un peu les idées des notes. Sur la transparence de l'organisation, on est à 2,44 sur 4. Sur la transparence dans ce qu'ils appellent le reporting, je pense que c'est
la communication.
Sur la communication, je pense que ça doit être sur l'aspect budgétaire notamment et les finances, ils sont à 1 sur 4. Sur la représentation des stakeholders, donc c'est les
parties prenantes.
Les parties prenantes, on est à 1,78 sur 4. Sur le processus démocratique, on est à 2,11 sur 4. Là, on rentre effectivement dans le cas de la critique de David Ward. Sur les mécanismes de contrôle, on est à 1,89 sur 4. Sur l'intégrité sportive, on est à 1,78 sur 4. Sur la solidarité, on est à 2,89. C'est solidaire, la FIA. C'est bien. 2,89 sur 4. Et au global, ils ont une note de 1,98 sur 4.
Ouais.
Alors après, effectivement, il faut c'est ce rapport indépendant qui, quand on lit le rapport, n'est pas vraiment si indépendant que ça. Mais bon, en même temps, quand on sait que David Ward a été obligé il ne peut pas se présenter.
Non.
Mais... on se dit que le rapport n'a pas non plus complètement eu tort, parce que justement, l'éviction de David Ward à cause du processus de sélection des candidats qui est très compliqué montre bien que sur l'aspect démocratique, on est effectivement face à une fédération qui est archaïque, même si je pense de manière globale, les élections ne sont pas forcément toujours des grands chantres de la démocratie.
Non, mais d'accord, mais cette étude se base sur des documents officiels de la FIA en premier, parce que c'est quand même première chose qui est dite, d'accord. Mais finalement, il n'y a que deux sources d'informations, c'est les documents officiels et David Ward. Ils auraient quand même pu essayer de multiplier un peu les regards pour en faire vraiment une étude, si ce n'est indépendante, une étude avec une multitude de points de vue, quoi, pour essayer de faire une synthèse.
Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que je te dis juste, c'est que quand, par exemple, ils mettent à mal le fait que le processus démocratique est pas très respecté au sein de la FIA, en tout cas que la note est pas très bonne en termes de démocratie, bah, quand on voit effectivement que David Ward, qui était candidat, au final, ne peut pas être candidat parce que il a pas les soutiens nécessaires, enfin voilà, c'est une règle assez compliquée, on se dit, voilà, certes, le fonctionnement et l'établissement de ce rapport est biaisé parce que on a une partie prenante et il n'est pas indépendant, mais mine de rien, quand on regarde les faits, ça souligne quand même le fait que, bah oui, ils dénoncent des choses, le rapport dénonce des choses, et dans les faits, bah effectivement, le processus démocratique, il n'est pas extraordinaire au sein de la FIA. Donc il faut le lire et l'analyser, effectivement en tenant compte du fait que c'est pas véritablement un rapport indépendant, mais après, il faut aussi le lire comme un élément de plus qui montre que la FIA n'est pas un outil, n'est pas un organisme démocratique, environnemental ou ce genre de choses.
Il faudrait qu'on puisse différencier dans le rapport les infos qui viennent de la FIA et les infos qui viennent de David Ward, en fait. C'est ça qui serait intéressant.
Bah, visiblement, il n'y a pas d'informations qui viennent de la FIA, enfin, sauf les textes et les documents...
Bah, y a un truc tout con, tout bête, sur le fait que, par exemple, la FIA ne publie ou pas son organigramme. Bah, ça, c'est pas fait, mais ça se voit sans la lettre de David Ward, ça, ce genre de choses.
Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, après, de toute façon, quand on est face à un document, n'importe quel document que vous lisez, il faut toujours vous poser la question de qui est l'auteur. Il n'y a aucun document qui est neutre. On a plusieurs fois eu ce débat dans l'émission, ne serait-ce qu'entre rédacteurs, entre chroniqueurs. Et c'est le cas sur tout document. Quand vous prenez un document, ce document, il a été écrit par quelqu'un, il a été commandé par quelqu'un, il est à destination d'un certain type de lecteur, il a un objectif. Eh ben, il faut analyser ce document et l'interpréter en fonction de tout ça et ne pas prendre tous les documents, tous les articles ou tous les contenus que vous trouvez pour choses acquises. Ça fait partie de l'éducation du citoyen et des bonnes manières sur Internet ou sur...
Partout.
Oui. Partout. Voilà.
Alors ma citation, c'est « Les équipes n'ont qu'elles-mêmes à blâmer car chaque nouvelle réglementation adoptée a un impact dramatique sur les coûts. » Alors, ce n'est pas Cyril Abitbol, ce n'est pas Claire Williams, ce n'est pas Monisha Kaltenborn, ce n'est pas Eric Boullier, non.
Ce n'est pas Graham Lowdown de Marseille.
Comme quoi, il est prêt à devenir le futur Bernier Ecclestone.
Carrément. C'est Christian Horner, hein, vous savez, le patron de l'équipe qui, quand même, hein, ça fait quand même plusieurs années qu'on se dit que bon, les budgets chez Red Bull, ils se gênent pas trop.
Hein. Je crois qu'il vient de gagner un SAV d'or.
Hein. L'équipe dont le propriétaire a dit « Oh bah, si les autres équipes n'ont pas les moyens, qu'elles se cassent !» Voilà, c'est... Merci, Christian. En effet, tu as raison, il a peut-être toute sa place pour remplacer Bernie.
Mais c'est là, en fait, ouais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pensait discret, très altruiste, tout ce qu'on veut, puis en fait, on se rend compte que c'est même crevard que Bernie, en fait. Et il est prêt à vendre sa mère.
Dis pas ça de Patrice Evra, hein, parce que... Non, alors, oh.
Sa mère, elle est déjà vendue, soldée, hypothéquée trois fois.
Patrice,
et sincèrement, bien. Moi je rêve que Patrice Evra fasse une déclaration pour dénigrer le SAV.
Ah, il a déjà nos surnoms.
Une pub d'enfer.
Oui, il a déjà nos surnoms, c'est bon.
C'est bon.
Tranquille.
C'est donc effectivement la dernière émission de Dino.
Donc voilà, c'est toujours drôle ce genre de déclaration.
Pour le moins.
Et donc il nous reste Ben.
Oui.
Alors les équipes n'ont qu'elles-mêmes à blâmer.
Ah. Alors Ben va s'infliger un auto-ta-gueule.
Un auto-ta-gueule. Ah.
Si tu n'as pas de citation, Ben, ça compte pour un ta-gueule.
Non. Ça va être une d'Adrian Newey qui explique un peu comment il travaille. Il appelle cela la règle des 24 heures. Est-ce que l'idée semble toujours bonne 24 heures plus tard? C'est ce qui fait la différence entre continuer sur la même voie ou passer à autre chose.
Et donc?
Rien, c'est une citation d'Adrian Newey, c'est tout.
Non, c'est vrai que parfois, faut pas chercher grand-chose des citations. Voilà, c'est
la fin de l'année.
Mais en même temps, c'est pas faux. Hein.
C'est intéressant dans son processus de création. Voilà, ça vient.
Non, mais en même temps, c'est très logique. Enfin, on s'est souvent retrouvé un samedi soir à avoir une super bonne idée.
Oui.
Et le dimanche matin, on disait.
Souvent avec une bière à la main.
C'est l'alcool. Ça.
Hein, voilà.
Donc maintenant, on sait qu'Adrian Newey conçoit ses voitures ivres.
Et t'es mon pote, je te ramène.
Si quand j'ai des saoulés, l'idée est toujours bonne, c'est que je la garde.
C'est peut-être comme ça qu'il réussit à être aussi innovant. Hein. C'est parce qu'il est bourré.
À mon avis, pour 2014, ce sera surtout pour trouver la voiture belle qu'il va devoir se bourrer la gueule. Parce qu'apparemment, elle va être très moche.
Oh oui.
Et moi, il a dit qu'il fallait qu'il y avait encore 6 mois avant qu'elle soit prête.
Ah bon ?
6 mois ?
Ça veut dire qu'ils ont 6 mois de retard par rapport aux autres. Mais que d'ici à ce que la voiture fonctionne et soit véritablement opérationnelle...
Ah, ça veut dire qu'il y a des victoires à prendre en
encore
6
mois, quoi.
Non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, quand on regarde toutes les saisons de Red Bull depuis qu'ils sont un top team en 2009, ils ont toujours eu une phase un peu difficile, à part en 2011. Ils ont toujours une phase un peu difficile en début d'année où il fallait où ils étaient en retard. Quand Newey dit qu'ils sont en retard, c'est qu'ils sont en retard. Et ça s'est vérifié en 2012. Ils étaient en retard, ils ont gagné une course sur les 7 ou 8 premières. Et voilà, et cette année aussi, il y a eu des victoires de Raikkonen, des victoires de Ferrari, des victoires de Mercedes.
C'est la deuxième année consécutive que le fameux vainqueur du premier Grand Prix n'est pas champion. C'est cette fameuse statistique qui veut que quand tu gagnes le premier Grand Prix, tu es champion à la fin de l'année.
Non, t'as une chance sur deux. Et je crois que c'est pareil pour le Grand Prix d'Espagne. Hein, parce que tout le monde le connaît par cœur. Ce qui sous-entendrait que si tu gagnes le premier et le Grand Prix d'Espagne, t'as genre 75% de chance d'être champion du monde.
Voilà. Et ben là, c'est Red Bull qui avait 75% de chance d'être champion du monde.
Ouais. En fait, t'as des chances d'être champion du monde si tu gagnes les 9 derniers Grands Prix.
Moi aussi, oui.
Ça, c'est ça un aide.
Surtout quand t'as que 9 Grands Prix dans une saison.
Allez, on va passer au sondage. On va revenir sur les deux derniers sondages. D'abord, le dernier sondage du MAG. Souvenez-vous, Bernie qui était passé devant les juges, hein, qui avait sorti des excuses. Et on vous avait demandé, à la place de Bernie, quelle prochaine excuse bidon donneriez-vous au juge? Vous avez été 94 à voter. Personne, je dis bien personne, n'a voté pour « Je discutais d'un film avec Stallone ». Pourtant, rappelons-le, il l'a fait, vraiment. On sait ce que ça a donné.
Mais c'est pas une bonne excuse.
Ex aequo avec 3 votes, on trouve « Je sauvais la carrière de Barrichello », franche réussite. Et « J'étais chez le coiffeur et croyez-moi, ça prend du temps ». 6 votes, on trouve « Je réglais le son sur Canal+ ». Ce qui fait partie, visiblement, selon Cyril Linette, de la petite majorité de gens qui ont eu un souci de son avec la F1 cette année.
Mais pas qu'avec la F1, parce que je regardais le match de foot dimanche soir et c'est pareil. Quand il y a du bruit dans le stade, vraiment, les commentateurs, tu les entends pas beaucoup non plus. Et pourtant, Paganelli, il part. Hein.
Change d'opérateur.
Ex aequo avec 7 votes, on a trouvé « J'étais à l'apéro avec Alain Prost, Eddie Jordan et Tom Walkinshaw et j'avais rendez-vous avec Dieu ». C'était peut-être au même moment, hein. C'était Alain Prost, Eddie Jordan, Tom Walkinshaw, Eddie. Allez, ça va.
Je lui ai offert une pinte, adieu.
Il avait rendez-vous avec lui-même.
14 votes, j'avais soirée SM avec Maxou. Je vous avais dit, ça marcherait pas si bien que ça, à force de le mettre tout le temps dans les sondages.
Ça s'use.
Est arrivé 3e, et pourtant pendant longtemps il a été premier. Sans doute parce que ça a créé des images mentales chez les gens. J'avais poney. J'avais poney a longtemps été leader. 2e, avec 18 votes, j'emmenais ma femme à l'école.
Avec Alonso.
Et premier pour rester dans la tendance 2013, mes pneus Pirelli ont explosé.
Ouais. Bah, comme quoi les gens votent vraiment doublé, n'importe en fait, quoi.
Ça vote très premier degré finalement.
Oui, voilà, c'est-à-dire que t'as l'impression que les gens ils ont voté, ils ont essayé de prendre celle qui faisait peut-être le plus écho à quelque chose de la saison. Alors que c'est peut-être pas forcément, enfin moi je trouve que c'est pas forcément celle qui répond le mieux à la question. Si tant est que la question puisse avoir une réponse plus ou moins acceptable.
Oui, je suis pas sûr.
Les votants ne
trouvent que pas honnête, ça méritait, voilà quoi.
Ça a été pas mal hein, quand même.
Ah ouais, j'étais à deux doigts d'un doublé.
Longtemps premier. Et aussi on va revenir sur celui de la semaine dernière, parce que bien évidemment c'est la dernière émission de la saison. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Brésil? Vous avez été 113 à voter. Je n'ai pas gagné cette semaine.
Ouais!
Ah non!
Champagne!
Là, de fait, tu t'es fait laminer, mon grand. Hein.
Oui, on s'est tous un peu fait laminer, là. Hein, parce que, 4e, 12 votes, Romain Grosjean dit au revoir à sa saison dans un panache de fumée.
Ouais, c'est pas moi! Ouais! Je suis pas dernier, c'est.
3e, 14 votes, Vettel, la RB9 portait bien son nom.
Non, ça va. Je suis content.
Les gens ont compris, quand même, l'intitulé. Ouais.
Oui, on va dire ça.
15 votes, McLaren, ça commence à marcher, mais c'est un peu tard.
Ça, j'ai cru que c'était toi, ça.
Bah ça, c'était moi, mais c'était
ça,
pas...
Ça, c'était toi ? Ah bah, c'est ton type de c'est ton type de formulation.
Sans doute.
Quand j'ai vu la phrase, je me suis dit, ça, c'est du chidi.
Mais est arrivé premier avec 72 votes, hein, donc on s'est tous fait laminer. Mark Webber, cheveux au vent.
Non, non, moi, je me suis pas fait laminer, moi. Je vous lamine.
On va te mettre des Pirelli, tu vas te faire délaminer.
Voilà, je suis un peu le Sébastien Vettel de cette émission.
Oui, oui.
Si tu veux.
C'est vraiment dommage qu'il puisse pas se mettre un ta gueule à lui-même.
Plutôt le Jérôme d'Ambrosio, je dirais.
Mais... Est-ce qu'il me veut, là, le 12% 39, là?
Oui, mais moi, je partais pas pour gagner. Je l'avais dit pendant l'émission, ça va faire dernier. Ça n'a pas fait dernier, je suis content.
Allez, messieurs, on va passer au dernier répondeur de la saison.
Non.
Moi, je vais infliger un auto-ta gueule, moi, pour celui-là.
Service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Et cette semaine, il faut bien le dire, on a un gros morceau pour le répondeur. Hein, puisqu'on n'a pas une, on n'a pas deux, on n'a pas trois, on a quatre questions.
Quatre ?
Oui, quatre.
Il y en avait autant.
Quatre, oui. Quatre. Et vous savez quoi, parmi ces quatre ?
Il y en a quatre.
Non, il n'y en a pas une seule d'Adelin.
Bravo, on te remercie, bel hommage.
Tout arrive.
Tout arrive.
Une belle façon de conclure.
Alors, on va commencer. Alors, on a trois questions audio. On commence bien évidemment par la première, c'est normal.
Ça se trouve, c'est la deuxième. Mais...
Bonjour à tous, c'est JB. J'ai une petite question qui concerne les pilotes payants. Donc, vous en avez brièvement parlé lors de la dernière émission, mais ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'un pilote payant ? Voilà, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui est soutenu, sponsorisé par des personnes qui ont beaucoup de poumons, qui croient en lui, qui espèrent le voir aller plus loin, plus vite possible. Donc j'imagine que c'est des gars brillants. Donc voilà, donc, je ne comprends pas pourquoi ils sont tellement dénigrés, en règle générale. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avance, à la fois pour la qualité de votre émission et puis pour votre réponse. Au revoir.
Alors, Mike, je ne sais pas s'il travaille à la poste. Ben, des faits, ça saturait
pas. Il parle en ligne.
Ben, c'est bien, il a répondu à sa question tout seul. Bravo.
Ah oui, parce qu'il faut savoir un truc. Alors, c'est le moment de l'année. Je crois que c'est cette question-là. C'est Ben qui est censé y répondre. Il nous a dit, non, oh, attention, scoop, je vais répondre à cette question du répondeur.
Non, attends. C'est vraiment Ben?
Je l'ai réécouté cet après-midi. Je me suis dit, mais il se répond tout seul, c'est très bien.
Non, parce que moi, je me rappelle d'une prédiction de Nostradamus qui avait dit le jour où un Belge répondra à une question du répondeur dans le SAV un 3 décembre, c'est la fin du monde.
À 22h15.
Ça se trouve, ils sont gourés d'une année. C'est cette année, la fin du monde. Faut qu'il y ait plus Garak.
Donc, c'est tout. En fait, t'as pris cette question en savant que tu répondrais en trois mots, quoi.
Mais non, j'ai préparé une réponse.
Non, t'as vraiment préparé une réponse parce que ça,
tout arrive, tout arrive.
Moi, sincèrement, quand j'ai écouté là, j'ai eu la même réflexion que lui. C'est, ah, ça, c'est la bonne question à prendre parce qu'il répond lui-même.
Non, j'ai un peu développé quand même.
Petit oui. A.
Pour notre dernière.
Petit A, oui. Petit B, non. Petit C,
ça se trouve, tu sais, peut-être. Il va compenser en une émission. Ouais, il va nous faire toute une thèse pendant 3 heures sur les billets payants.
Non, si vous avez survécu à Jacques Villeneuve, vous survivrez bien à ma réponse, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, pour bien répondre à cette question qui taraude pas mal de monde, on va repartir sur les fondamentaux. Mais qu'est-ce donc qu'un pilote? Alors, première définition donnée par Larousse.
Putain, hein, il va voir mon
voilà, je vais chercher une bière, hein, les gars.
Un pilote est un spécialiste commissionnaire. Non, mais ça va, il suffit de m'interrompre quand je réponds aux questions, ouais. Oh.
On fait 2 pauses pipi maintenant en émission, c'est pour le savoir.
Rappelle-toi, Ben, tu peux lui mettre un ta gueule.
C'est vrai. Vos gueules à tout le monde.
Ça marche pas, ça.
Y'en a qu'un.
Ouais, pour le dernier, Marc, j'ai pas droit à ta gueule collectif.
Oh, allez.
Ouais, tu me diras, si tu veux gâcher un ta gueule pour le moment où tu vas monopoliser la parole, ça nous dérange pas.
Oui.
Bah, vu que vous n'arrêtez pas de me la couper... on
te laisse répondre, hein.
Ensemble, voilà. Nous, hein.
Bon. Qu'est-ce donc qu'un pilote? D'après le dictionnaire Larousse, un pilote est un spécialiste commissionné par l'État dont la présence à bord est nécessaire pour guider le navire à l'entrée et à la sortie des ports et des rivières. Donc là, du coup, on est loin de notre sujet de prédilection. Plus loin, nous apprenons qu'un pilote est aussi une personne qui conduit une voiture de course. Voilà, c'est ça. En F1, il y a donc 22 pilotes sur la grille. Bon, alors vous allez me dire, Ben, t'es bien gentil, mais ça, on le savait déjà. Eh bien, vous avez raison. Il faut donc passer au deuxième point, maintenant, du sujet. Qu'est-ce qu'un payant ? Alors, toujours aidé par notre grand maître à tous, Larousse, pardon, voici les définitions de payant. Payant, qui veut dire qui paye pour un service ou pour quelque chose, qu'on paye ou, donc opposition à gratuit, qui rapporte de l'argent, qui produit l'effet recherché. Donc, un pilote payant serait donc quelqu'un qui paye l'écurie pour rouler et qui peut percevoir son salaire d'un tiers, ici un sponsor. Dans l'immédiat, le pilote payant remplit donc les caisses d'une écurie et, dans le meilleur des mondes, signe de bons résultats, également synonyme de rentrée financière. L'expression de pilote payant est cependant souvent utilisée de façon péjorative. Il est vrai que par le passé, des valises bardées de billets ont permis à des pilotes à la vitesse plus que discutable de prendre le départ d'un Grand Prix. Des pilotes comme Taki Inoue, 18 départs, 13 abandons au début des années 90, ont largement contribué à l'image négative des pilotes payants. Notons également que le phénomène n'est pas nouveau, puisque James Hunt est arrivé en Formule 1 avec des belles valises et que Niki Lauda lui-même a aussi joué la carte financière pour se trouver un baquet, même si dans son cas, c'était un coup de bluff puisqu'il était sans argent. De même, un certain Michael Schumacher avait aussi, lui, dû débourser quelques 150 millions de dollars, pour se glisser dans la Jordan en 91. En F1, aujourd'hui, il y a quelques pilotes payant clairement identifiable. On pense évidemment à Max Chilton, bien soutenu par papa. Guido van der Gard, également bien soutenu par le papa de madame. Sergio Perez et Esteban Gutiérrez, qui sont aidés par l'homme le plus riche du monde. Ou encore Pastor Maldonado, qui est suivi comme son ombre par PDVSA. On est quand même loin ici de faire face à des pilotes qui sont incapables de tourner un volant. Mais la F1 n'étant jamais simple, de nombreux autres pilotes peuvent aussi être considérés comme des pilotes payants. Ainsi, en 2010, Fernando Alonso est arrivé chez Ferrari par la volonté de Santander, alors qu'on évoque que le retour de Raikkonen, lui, est soutenu par Shell, qui payerait le Finlandais. De même, Vettel aussi a été soutenu toute sa carrière par Red Bull, qui a payé sa formation dans les différentes catégories et qui aujourd'hui récolte les bénéfices de cet investissement. Aujourd'hui, la situation financière de la F1 fait que seul le talent ne suffit pas, mais dans le même temps, les équipes doivent aussi s'assurer les meilleurs résultats possibles en piste. L'argent et le talent sont donc très souvent liés et il faut un peu des deux pour espérer entrer dans la discipline. Par contre, pour y rester durablement, il faut bien souvent une sacrée pointe de vitesse et ça, ça ne s'achète pas.
Putain, les gars, j'ai eu un cours d'étymologie ces dernières minutes-là, c'était chiant.
Ah. Ça va, Dino, je pense que tu peux en venir aussi.
Non, c'est juste que
Dino.
On va finir sur ça, quoi.
Ah, il est conscient. Non. J'ai eu peur.
Oui, il est là.
J'ai eu peur 30 secondes.
Le SAV va s'arrêter sur ça.
Mais non, déjà, il y a d'autres questions. Tu vois,
oui, c'est vrai. Il va s'arrêter sur ça et sur ce qui va venir après.
Par définition, oui.
Allez, deuxième question.
Bonsoir à tous, c'est Adelin. Non, je déconne, c'est Antoine du 74. Eh bien, j'avais une question concernant l'assistance au pilotage des pilotes. Alors, je me demandais tout simplement si les monoplaces étaient équipées de ce genre de technologie, à savoir l'assistance au freinage, enfin l'ABS, tout ça, l'assistance à la direction, tout ça. Voilà, donc est-ce que les pilotes y ont eu droit pour la saison 2013? Est-ce qu'ils y auront droit pour la saison 2014? Sortez-moi de l'ignorance. Merci, ciao à tous.
Il faudrait savoir, il vient de l'ignorance ou il vient de la Savoie? là, désolé.
Pardon.
Et tu veux finir le SAV sur ça, sur cette blague?
Oui, mais les gens sont déjà... Après la réponse de Ben, les gens sont déjà morts.
on les a tués, nos auditeurs, ce soir. Et là, c'est toi, c'est Gus-Gus. Parce que, évidemment, c'est de la technique. Quand c'est de la technique, c'est toujours Gus-Gus.
Parce qu'il faut relever le niveau un petit peu. Et non, ça va être très court.
L'attache n'est pas très dur.
ça va être très court puisque tout ce qui est aide au pilotage en F1 est désormais électronique. Et depuis 2007, l'électronique est standardisée pour toutes les voitures. C'est McLaren qui a été choisi après un appel d'offres de la FIA pour fournir cette prestation à toutes les écuries. Et dans les spécifications de la FIA, le but justement d'introduire cette électronique standardisée, c'était justement d'éradiquer toute aide au pilotage, qui sans cela était difficile à réguler puisque chaque écurie pouvait faire un petit peu ce qu'elle voulait. Donc à ce moment-là, voilà. Donc en ce moment et l'année prochaine, il n'y aura aucune aide au pilotage à part la direction assistée, qui est un système donc hydraulique pour faire en sorte que la force appliquée sur le volant par le pilote pour le tourner ne soit pas au-delà d'un maximum pour ne pas que ça devienne impossible de conduire une voiture pendant un Grand Prix. Voilà. Donc c'est jusqu'en 2008, hein, j'ai dit 2007, c'est 2008. Jusqu'au début 2008, les aides au pilotage ont été régulièrement utilisées. On se souvient, donc que ce soit donc surtout l'antipatinage ou l'aide au départ, l'assistance au départ. Voilà, depuis cette époque-là, il n'y a plus d'aide au pilotage, si ce n'est la direction assistée par hydraulique.
Mais il n'y a pas eu des aides au pilotage qui avaient été interdites au début des années 90?
Oui, alors en 94, tout ce qui est parce que notamment chez Williams, on avait réussi à mettre la suspension active. Il y avait l'antipatinage,
l'ABS et tout ça, je crois.
Voilà. Mmh. Oui, l'ABS, voilà, tout ça a été interdit fin 93, début 94. Et à la limite, la seule chose qu'on peut considérer comme une aide au pilotage aujourd'hui. Il y a l'anticalage aussi, qui permet quand le moteur est à trop bas régime de remettre un coup de gaz, mais d'ouvrir l'embrayage pour pas que la voiture cale. Et il y a les vitesses semi-automatiques. Voilà, il n'y a pas d'embrayage. Les pilotes n'ont pas besoin d'appuyer sur l'embrayage pour passer les vitesses. Quoi. À part ça, il n'y a pas vraiment d'aide au pilotage. C'est vraiment les pilotes qui sont censés être au contrôle de leur voiture. C'est un article du règlement.
Ok. Les gars, rien à rajouter sur les aides au pilotage?
Ne lance pas Ben, il va encore voir son dictionnaire. Et...
J'ai l'impression que je les ai plus tués que Ben.
Non, mais la technique, t'es habitué, tu sais très bien que ça.
La réponse n'est pas si compliquée que ça. Il n'y a pas d'aide au pilotage, voilà, c'est tout.
Toi, c'était simple.
Mais je l'ai dit, tu m'as pas écouté.
Voilà, il y en a pas, il y en a
oui,
plus
mais t'as
parce
développé.
Que c'est interdit. On peut même, enfin, voilà, pour dire simplement, on peut même dire qu'aujourd'hui, les voitures de route ont plus d'aide au pilotage que des F1.
Ah oui, carrément. Ouais.
Carrément même.
Mais moi, j'ai une petite question. Tu parlais de McLaren et de l'électronique, de l'appel d'offres qui avait eu lieu. Est-ce que cet appel d'offres, il a une fin à un moment donné? C'est-à-dire que, ils ont bien un contrat avec la F1, McLaren Electronics. Quand est-ce qu'il s'arrête?
Ben déjà, j'ai absolument pas d'infos sur là-dessus. Après, je pense que ça a dû être remis sur la table pour 2014, vu le changement.
On se rappelle qu'ils avaient introduit cette année un nouveau logiciel pour le rodé pour 2014 et qu'on se dit heureusement qu'ils l'ont introduit dès 2013.
C'était compliqué, oui. Mais donc, oui, ça a dû être remis sur la table, alors plus ou moins de manière plus ou moins privée, parce que effectivement, on n'a pas eu, j'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup d'informations là-dessus.
Allez, on va passer à la troisième question, qui est une question écrite, qui nous est arrivée cet après-midi. C'est pour ça aussi que les autres ne sont pas au courant. Une question de Julien, en fait, une proposition qui pourrait amener du débat. Voilà. Julien n'est pas fan des équipes qui se retrouvent avec deux pilotes de très haut niveau. Et au-delà des voitures, je trouve aussi le plateau déséquilibré en termes de pilotes. Son avis, qui précise bien, n'engage que lui, c'est que des équipes comme Williams ou Force India auraient plus progressé avec des pilotes comme Rosberg, Button, Hamilton, Alonso. Les preuves pour moi, pour lui, sont Lotus et Sauber qui ont progressé, et pas seulement au classement, avec des pilotes qui maximisent les qualités des voitures, comme Raikkonen, Perez, Hülkenberg. Et en fait, sa proposition, et il nous la soumettait pour un peu savoir notre avis, c'est de dire, après tout, pourquoi on ne ferait pas en F1 un même système qui existe, et il cite notamment la NBA, qui est d'imposer un salary cap aux équipes de F1. Alors, bon, sur le principe, il se base énormément sur la NBA, enfin, je ne suis pas expert sur la NBA.
Je vois pas ce que ça changera, en fait. C'est-à-dire que même si tu imposes un salary cap, il n'y a pas que le salaire qui rentre en ligne de compte. Enfin, tu vois pas un Alonso partir chez Williams juste pour la beauté de Williams. Il ira là où il y a la meilleure équipe et là où il y a le meilleur salaire. Enfin, c'est un package complet.
Tu suggères qu'il a voulu quitter Ferrari
Non, mais enfin, je prends Alonso, mais ça pourrait être n'importe
qui.
Oui,
non, c'est bien compris. Ouais.
Évidemment, fixer un salary cap, ça pourrait permettre à chacun de s'offrir le pilote de son choix.
Oui.
Mais si c'était la seule condition, ça suffirait pas. Enfin, c'est un package complet. Les pilotes, heureusement que les pilotes ne choisissent pas leur écurie que pour le pognon. On le voit d'ailleurs avec Alonso, qui a un pont d'or chez Ferrari, qui est grassement payé. Enfin, d'ailleurs, c'est un deal gagnant-gagnant pour Ferrari comme pour Alonso, parce que c'est Santander qui paye, qui gagne très très bien sa vie. C'est le pilote le mieux payé aujourd'hui avec Hamilton. Et pourtant, il cherche à aller ailleurs, parce qu'il veut une voiture qui lui permet de gagner et qu'aujourd'hui il l'a pas, donc je suis pas sûr que ce soit en soi une solution. La vraie solution, ça serait d'imposer aux pilotes de faire un tirage au sort ou je sais pas quoi, et là peut-être on aura des surprises, mais
on l'a déjà fait l'année dernière.
Oui.
Mais je crois qu'Alonso était resté chez Ferrari avec Schumacher.
Au-delà de la notion de choix de la part des équipes, ne serait-ce que pour baisser les coûts. Parmi les coûts qui pourraient être baissés dans les équipes de F1, est-ce qu'un salary cap, ça peut paraître extrême, n'est pas une solution finalement qui est évidente, qui est utilisée dans d'autres sports?
Oui, mais les équipes allongent l'argent pour s'engager un pilote, de l'argent qu'ils ont. Donc s'ils estiment qu'ils peuvent se permettre de dépenser X millions pour un pilote, ils le font. Maintenant, s'ils préfèrent mettre de l'argent sur le développement de la voiture parce que voilà, ils n'ont pas les moyens de dépenser 20-25 millions, bah, ils proposeront pas 20-25 millions à un pilote, donc j'ai pas forcément l'impression que ce soit le plus gros truc qui impacte sur les coûts de fonctionnement d'une équipe.
Pour vous, serait pas possible, parce que de toute façon, même si on met un salary cap, il faut que les équipes soient capables d'allonger l'argent, et c'est pas possible pour certaines.
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes quelle équipe paye son pilote, enfin... tu payes un champion du monde, tu payes Raikkonen, tu payes Alonso, tu payes aujourd'hui, même Vettel n'est pas super bien payé, tu payes Hamilton. Après, les autres, ils sont pas payés, enfin, c'est soit eux qui payent, soit ils ont un Grosjean cette année, il a touché 1 million, voilà, en comparaison, et encore, on n'est pas sûr qu'il les touche. Enfin, c'est même là, c'est-à-dire que quand on regarde cette année, on a beaucoup parlé du salaire de Kimi Raikkonen parce qu'il y avait que ça qui nous intéressait, avec sur ça qu'on communiquait, tout le monde se foutait de savoir si Grosjean, lui, était payé, tout le monde se foutait de savoir si les ingénieurs de chez Lotus étaient payés. C'est-à-dire que voilà, il n'y a que quelques pilotes qui sont payés et grassement payés, les autres, ils vivent à peine avec ce qu'il faut. Enfin, c'est comme ce débat toujours sur le salaire des footballeurs. C'est sûr que si on prend le salaire de Zlatan Ibrahimovic qui touche 15 millions par an, c'est indigne. Maintenant, il faut regarder qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ont une carrière très courte et qui touchent 10 ou 20 000 euros par mois, qui ne cotisent pas forcément super bien pour la retraite et où le système n'est pas, pas génial pour eux. Donc, après, c'est peut-être effectivement plus... Enfin, un salary cap, oui, tu vas fixer un salaire maximum, mais enfin, il y a déjà aujourd'hui des pilotes de Formule 1 qui ne touchent pas de salaire, donc ça change
en fait,
rien.
Ça aurait du sens si genre ils étaient tous payés, genre, je sais pas, 10-15 millions, mais tous.
Oui, voilà.
Oui, puis s'ils étaient tous payés par leur équipe aussi, parce qu'effectivement, Alonso, c'est Santander, Raikkonen, on parle de Shell, qui financerait le salaire.
Après, si tu veux vraiment aider les équipes, et moi, c'est quelque chose que j'ai suggéré dans un des SAV, soit en début d'année, soit en fin d'année dernière, si tu veux vraiment aider les équipes, il faut que tu en sors un système de transfert ou un système de dédommagement formateur. Mmh. Quand tu prends Sauber, par exemple, qui s'est fait voler un Sergio Perez par McLaren, qui n'a strictement rien gagner. Quand tu prends une équipe, il faudrait inciter les équipes à parier sur des jeunes pilotes en leur disant, ils ne payeront pas, ils vous apporteront pas de budget, mais à la fin vous aurez la possibilité de le revendre. Si vous arrivez à faire un bon travail avec lui, à lui donner de la valeur et à le revendre à une équipe plus fortunée, vous toucherez, ils pourront vous racheter le contrat et vous pourrez toucher quelque chose et faire votre budget. Et il y aura donc des équipes qui vivront de la promotion des jeunes pilotes, comme on a aujourd'hui des clubs en France qui vivent de la formation dans le football ou dans d'autres sport, qui vivent de la formation et de la revente de leurs meilleurs éléments. Je pense que là, pour le coup, ce serait vraiment aider les équipes financièrement, plutôt que d'imposer un salary cap, qu'on sait très bien que c'est une solution, mais ça va réduire la masse salariale globale, ça peut être intéressant, mais on sait très bien que l'argent sera réaffecté par d'autres postes.
Alors, sinon,
pas dans le salaire du pilote, une meilleure quoi.
Sinon, son
autre. Puis les écuries n'arrivent pas à se mettre d'accord de toute façon sur tout ce qui est financier. Donc, on l'a dit tout à l'heure avec Red Bull qui de toute façon s'oppose à un peu près tout ce qui se fait. Donc.
Parce que sinon, l'autre proposition qu'il faisait, justement aussi à l'exemple de la NBA, et c'est pour ça que je t'ai coupé, c'est que se dire après tout, pourquoi pas une espèce de draft, puisque tu l'as évoqué très rapidement, pour les rookies, où on pourrait imaginer. Tous les pilotes qui souhaitent s'inscrire à la draft, et bien évidemment, comme dans les séries américaines, ce seraient les équipes les plus basses du classement qui auraient les choix prioritaires sur les meilleurs jeunes.
Oui, en sachant aussi, il faut quand même, enfin, c'est pas la draft NBA, je sais pas comment ça marche, mais par exemple la draft NFL, certes effectivement, ce sont les plus bas du classement.
Ouais, après, oui,
choix,
ça s'échange.
Mais t'as quand même des possibilités de racheter ou d'échanger des tours de draft sur l'année suivante, etc., pour avoir des meilleurs joueurs. Donc, au final, il faut quand même se mettre dans la tête, c'est que t'auras beau mettre n'importe quel système en place, les plus riches et les plus malins s'en sortiront mieux.
Après, moi, plus prosaïquement, peut-être, c'est que. Alors, c'est vrai que la F1 marche en ligue fermée, fondamentalement, comme la NBA, comme la NFL et tout ça. Le truc, c'est que la draft, si je ne me trompe pas, que ce soit les différentes drafts, ça dure plusieurs jours, il y a plusieurs tours. Je ne sais pas combien, hein, je ne suis pas expert en ça, mais c'est un paquet de jeunes qui arrivent tous les ans. Parce que c'est, la NBA, c'est quoi? C'est 30 équipes. Donc, il y a un premier tour à 30 équipes. Il y a facilement 3-4 tours. Donc, il y a facilement.
Deux tours en draft NBA, il me semble. Deux tours de 30 équipes.
D'accord. Donc, ça fait.
Parce que justement, j'ai lu cet article il n'y a pas longtemps sur Wikipédia. Mm-hmm. Je ne sais plus pourquoi. Au départ, il y avait énormément de tours. Mais ce qui faisait que, finalement, il y avait très peu de. Il n'y avait que dans les 2-3 premiers tours que les joueurs jouaient réellement. On sait par exemple que Carl Lewis avait été drafté au 7e tour, le sprinter, l'athlète.
Ouais.
Et finalement, il n'a jamais joué en NBA.
Bah non.
Il s'est tourné vers l'athlétisme. Du coup, ça ne servait à rien. Et donc, progressivement, ils ont réduit le nombre de tours de draft à 2.
Donc, même à 2, ça fait une soixantaine quand même de joueurs qui sont.
Oui, et tous n'ont pas de grande carrière.
Voilà, et tous n'ont pas de carrière. Là, imaginez un draft pour la F1, on parle de 2-3 places par an.
Oui, voilà.
Mais. Donc, ouais, c'était tout pour les propositions de jeu qui nous suivent sur iTunes hein, depuis la fin de saison dernière et qui nous saluent pour notre travail. Donc, je vous le communique aussi à vous, chers chroniqueurs. Voilà, on espère avoir. Même si finalement on n'est pas forcément super chaud pour ces idées-là, voilà, on a répondu à ta question. Et donc, la dernière question.
The last but not the least.
Oui.
C'est le nom du mail que j'ai envoyé à Fidi.
Oui, qui est lui-même repris du nom du. Alors, on va tout vous dire. Hein. C'est repris du post sur Facebook que j'ai mis pour la préparation de cette émission.
Mais comme quoi, on ne les lit pas, tes posts. Hein, parce que moi,
voilà. Allez, dernière question.
Salut Shinji, salut Dino et salut à tous les autres chroniqueurs du SAV. C'est Malox. J'écoute votre émission depuis le début de cette année et je voulais profiter d'une émission d'intersaison pour que vous nous racontiez un petit peu la genèse du SAV, qui est moteur dans l'histoire, combien de temps vous y passez par semaine, depuis combien de temps vous faites ça. Je trouve ça super intéressant, tout ce que vous pouvez raconter. Ça donne un petit œil nouveau sur sur la Formule 1, des informations qu'on n'a pas forcément le temps de consulter sur le net, les rumeurs qu'on n'a pas forcément le temps de lire. Bon, l'émission est un peu longue, donc ça permet d'écouter en plusieurs fois dans la semaine pendant les temps de transport. C'est super agréable. Et voilà, c'est tout. Si vous pouvez me répondre à ma question, ça serait cool. À une prochaine, ciao.
Je précise que personne n'a payé Malox pour ce message. Non. Nous ne l'avons pas payé.
Mais par contre, on a kidnappé sa famille, donc voilà. Ça aide.
Les remerciements qui nous ont été adressés cette semaine, nous n'avons payé personne.
Il devait savoir que c'était la fin.
avant le début, peut-être Dino, tu... Non enfin,
oui. Le SAV c'est en 1984 que le petit Dino naquit dans la province de Rouen, en Normandie. Élevé par des parents amoureux et attentifs.
Non, tu peux passer les 23 premières années.
Non.
1900 à 2008.
Le SAV de la F1 a commencé un peu, je sais, enfin, j'y pensais aujourd'hui, c'est un peu, je ne sais plus comment, à vrai dire.
Oui, c'est vrai.
On avait à l'époque chacun nos blogs. Shinji et moi, on est originaire de la même ville. Maintenant, je peux même pas dire qu'on est de la même ville.
Dans ton cœur, tu es quand même rouennais.
Ouais, forever. Mais on est originaire de la même ville. On a fait nos études post-bac ensemble, on a fait nos études d'histoire et on avait deux points communs importants, la Formule 1 dont on parlait régulièrement et puis aussi le cinéma,
on allait
voir des films ensemble. Et c'est vrai, ouais, non, mais c'est-à-dire qu'après, voilà, il m'a éduqué à certaines choses que je tairais parce que voilà. Mais donc à l'époque on avait chacun nos blogs et sur nos blogs généralement on se retrouvait à faire des articles en double et souvent les articles en double c'était les films qu'on allait voir ensemble au cinéma et les Grands Prix de Formule 1 où on faisait un débrief. Et moi c'est en 2008 et c'est là où vraiment je sais pas pourquoi je me suis mis à faire ça en audio en 2008, c'est peut-être lié à la victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix d'Italie 2008, puis il y avait eu le Grand Prix de Belgique un peu polémique avec Hamilton, enfin j'ai eu le besoin de le papier ne me suffisait plus, j'avais besoin de parler et je me suis lancé dans les darts autocritiques qui étaient des monologues de 30-35 minutes de moi tout seul. Donc,
de la plus voilà. Pure tradition d'Ignienne.
Ouais.
D'Ignienne, je sais pas comment dire.
Et c'était un exercice qui était le format audio était intéressant, après il fallait le partager et très rapidement Shinji s'est joint à moi.
Bah, en fait, il y a eu trois darts autocritiques. Et puis un jour,
tu deux darts autocritiques.
Ouais, je le fais tout seul. Est-ce que tu veux pas venir et tout pour faire l'émission pas,
C'est mieux qu'on le fasse ensemble.
Ouais.
Donc après, on a, c'est vraiment là qu'est né le SAV de la F1. On a vraiment
choisi
le nom, il n'est pas venu par hasard, etc. Et puis après, ça s'est enrichi, puisqu'à l'époque, moi, j'étais sur... je collaborais au site enzof1.com, avec des petites caricatures sur des casques de pilotes qui étaient personnifiés. Un super site, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours en ligne, on pouvait aller voir les archives. Et donc à l'époque, je collaborais avec Enzo, qui a rejoint l'équipe en 2009. On a fait 2009 et 2010... ensemble, 2010 Enzo est parti et puis on a commencé à intégrer un peu des auditeurs. Parmi ces auditeurs les plus historiques,
on est passé chez Fan F1 parce qu'au début on n'était pas sur Fan F1.
Ça c'est même avant, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à intégrer des auditeurs, notamment Fab, notamment Steph Core qui sont parmi les plus anciens,
les historiques.
Et puis après se sont greffés d'autres personnes et il y a eu effectivement en 2001 une étape majeure dans notre développement.
Bon, 2011 c'est le
passage sur En 2011, oui. En 2009, c'était une autre étape majeure, mais c'était pour la Formule 1.
T'as dit 2000, il s'écoute même pas parler.
Il s'écoute même pas, ouais.
Mais pourquoi je m'écouterais, hein? Ça sert à rien. Je pense, j'aime bien. Mais voilà, en 2011, on s'est associé avec Fan F1 pour avoir nos émissions sur Fan F1. Même si je tiens à le préciser, ça va expliquer pas mal de choses par la suite, que on s'est pas confondu avec Fan F1. On était exposé sur Fan F1, on apportait nos contenus sur Fan F1, mais on continue d'apporter nos contenus sur Fan F1, mais on gère le SAV de notre côté. Fan F1 gère sa rédaction. Il s'est trouvé aussi que les participants à l'équipe du SAV ont rejoint pour certains l'équipe de Fan F1 et voilà, mais en dehors de ça on a fait notre bout de chemin tout seul en même temps que Fan F1 dans une direction commune, et c'est là que je vais vous passer le bébé messieurs. Parce que j'ai trop parlé.
Alors peut-être parce que bon.
Des chroniqueurs, peut-être.
Non, non, mais 2012. Là, ouais, 2012, arrivée des chroniqueurs.
On s'en fout des chroniqueurs.
Ouais, barrons-nous, Ben.
Arrivée des chroniqueurs, arrivée de la formule du mag et tout ça, telle que vous connaissez ouais. actuellement.
Passage en quotidien.
En quotidien, t'es pas grand Dieu.
On est hebdomadaire.
Ça, c'est 2029.
Donc, ça, c'est un peu le chemin du SAV jusqu'à aujourd'hui. Alors, il pose aussi la question de combien de temps ça nous prend. Alors là, en fait, c'est extrêmement variable en fonction des personnes et c'est en fonction aussi de... des types d'émissions.
Oui.
Alors, je sais pas, par exemple, toi, Dino, sur un mag, je suppose, sur un mag, sur une émission d'après-course...
On va pas prendre en ce moment, parce qu'en ce moment, il fut une époque où produire une émission prenait facilement...
Je parle de travail en émission, de préparation.
En comptant l'enregistrement, la préparation, le montage, etc., il fut une époque quand vraiment on était que deux ou trois et qu'il fallait gérer ça, il fallait, oui, 10 à 15 heures par émission d'investissement pour mettre ça en place. Aujourd'hui, avec une équipe qui est un peu plus large, on a justement aussi, on s'est appuyé sur cette équipe pour que chacun puisse mettre la main à la pâte, etc. et nous alléger aussi notre charge de travail parce que, enfin, oui. l'année dernière, par exemple, moi je sais que j'ai fini la saison sur les rotules parce que c'est très très dur de suivre le rythme si en plus on s'investit ailleurs.
Voilà, on était comme la F1 sur la question qui est le moteur un peu. Voilà, on était un moteur V8 et puis bah, maintenant on est un V6, il y a quand même Dino et moi qui sommes les créateurs. Et puis il y a quand même autour du turbo et de l'hybride qui pousse bien quand même maintenant ce moteur qui est le SAV, pour faire une analogie avec la F1.
Shinji fait le bruit du moteur électrique.
Et c'est pour dire qu'avant on était tout seul et puis que maintenant voilà, il y a les chroniqueurs et que tu le sais bien, on...
Et qu'on pourra nous remplacer en prenant 5 places sur les grilles, c'est ça qu'il faut dire.
Voilà, les chroniqueurs ont pris de plus en plus d'importance. On vous a même parfois laissé les clés.
Alors, je sais encore pas si... jamais complètement. Ils ont toujours fait une émission quand l'un de nous deux était là.
Il y en a toujours au moins l'un de nous deux là, voilà. Mais pour vous dire que là, les chroniqueurs, ils sont pas que chroniqueurs, ils prennent beaucoup d'importance dans le fonctionnement du SAV. Donc il l'a dit...
il faut insister sur ce point-là, hein. C'est que si vous intéressez un peu au monde des podcasts, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais il y a très très peu de podcasts qui sont capables d'assurer toutes les semaines une émission de 2 heures, une émission qui plus est montée avec tout ce que ça implique aussi en termes d'organisation, et en plus de pouvoir proposer régulièrement des nouveautés comme la mise en place du live, comme l'animation d'un site, etc. Enfin, c'est une tâche collective qui est très importante, et c'est vrai que c'est heureusement qu'on a ces chroniqueurs qui sont venus non seulement apporter leur force de travail et leur force d'investissement, mais aussi qui sont venus apporter leurs idées. Enfin voilà, le SAV aujourd'hui ne serait rien sans ce que chacun y a apporté, qu'il soit encore ou pas dans l'équipe. C'est aujourd'hui, c'est plus seulement mon bébé, le bébé de Shinji, c'est le bébé de toute l'équipe, et c'est un héritage.
Après, sur le travail pré-émission, alors c'est vrai qu'il y a tout un travail qui n'est pas vraiment un travail, parce que quand on regarde la course de F1, c'est pas du travail, mais c'est forcément le minimum quand on fait le SAV de la F1. Mais c'est pas vraiment du travail, mais c'est quand même 2 heures obligatoires quand on veut préparer le SAV de la F1. Pendant l'émission, voilà. Et encore, on s'est beaucoup amélioré sur les durées d'enregistrement d'émission. Une petite pensée à nos invités qui ont participé à des émissions extrêmement longues parfois.
Mais il y a Jackie Ratzenberger qui est très très inquiet.
Il y en a qui nous écoutent, qui disent mais pourquoi il parle de tout ça et tout.
Rassurons les gens, on va profiter de cette question de Malox, c'est ça?
Oui.
D'abord le remercier de cette question.
Il faut que je sorte.
Sinon c'est des comprimés pour l'estomac.
Voilà. Donc déjà pour dire, donc il y a l'émission avec sa durée, tout ça. Bon, voilà, maintenant on arrive quand même à faire des émissions pas trop longues et à ne pas trop finir à 2h du mat.
Ce soir c'est foire rire.
Bon, ça va, il est 23h. Ouais,
hein. Oui, mais là, comme on est parti, je me dis, ça fait déjà un quart d'heure qu'on répond à cette question. On n'a pas fini.
Il n'y a rien après.
Mais après, il n'y a plus grand chose. Donc, il y a ça. Et puis, alors, après, c'est vrai que ce qui prend aussi énormément de temps, c'était le montage.
Surtout, il faut quand même applaudir Dino qui a monté l'émission. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé à monter l'émission, Mais jusqu'à toi, l'année dernière, il a monté toutes les émissions.
Oui.
Et cette année, les chroniqueurs et Shinji ont commencé à mettre la main dedans. Mm. Déjà, on a trouvé ça très compliqué.
Oui.
Et ça, enfin, même.
Parfois juste des parties, parfois en entier.
On a monté un tiers d'émission et certains ont pris des heures à prendre ça. Mm. Et on se dit, mais Dino est un malade, il a fait ça. Ouais. Il a fait ça tout seul pendant au moins 2-3 ans. Quoi.
Après, c'est en fonction des disponibilités. Par exemple, l'émission du Grand Prix du Brésil, c'est moi qui l'ai intégralement montée. Voilà.
En sachant quand même que l'objectif aussi derrière, quand on commence à développer un projet et que ça devient sérieux, parce qu'aujourd'hui, le SAV, pour nous, reste quand même malgré tout quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qu'on met en avant sur nos CV. Moi, j'ai trouvé un travail récemment, c'est quelque chose que j'ai mis en avant sur mes capacités à gérer des projets, à les développer, à les faire avancer, à déléguer des tâches et compagnie. C'est quelque chose qu'on met en avant, c'est quelque chose de sérieux. Et quand on arrive dans cette dimension-là, tout en étant toujours quand même malgré tout amateur et avec des moyens qui sont ridicules, il faut aussi se développer et essayer de mettre en place des choses qui nous facilitent la tâche et qui rendent la gestion plus simple. Cette année, l'introduction du live a été une bouffée d'oxygène parce qu'effectivement, il n'y a plus le montage. Moi, je le faisais le montage parce que c'était vraiment pour la qualité. Je trouve que c'est une émission qui est un peu plus agréable quand c'est monté, quand on coupe les silences, etc. C'est vraiment plus respectueux de l'auditeur. Là, il y a toujours un léger montage, c'est-à-dire qu'on réduit les silences. Vous avez les silences pendant le live, vous ne les retrouvez pas forcément dans le podcast derrière parce qu'on les coupe. Mais ça, c'est une formalité qui prend quelques minutes. Et il fut un temps où on faisait tout à la main.
Oui,
et un jour, on a exploré le logiciel de montage.
Parfois, on découvre une fonction tronquée le silence. Parfois, on découvre quand même que l'OGG, c'est vachement mieux que le MP3. Vous voyez, des choses comme ça.
Que le Wave.
L'objectif du SAV aussi, c'est toujours d'être dans cette réflexion, et c'est là qu'on va un peu se tourner et rassurer les gens pour la suite. C'est toujours d'essayer de proposer toujours aussi bien, voire même mieux, en essayant nous de nous alléger la charge de travail et aussi de nous permettre de trouver du plaisir. Je ne cache pas qu'en 5 ans de SAV, il y a des moments où j'avais plus aucun plaisir à faire le SAV, et même encore récemment, et que c'est justement à partir de ce moment-là qu'il faut se dire, il y a peut-être des choses à changer, à réformer et à améliorer. Et c'est ce qui nous a emmené.
Mais ça, c'était avant. Voilà.
Et c'est ce qui nous emmène donc sur 2014, parce que nous serons bien là en 2014 pour.
Est-ce vivre que vous aimez le rose et les licornes?
Je suis viré, moi, alors.
Oh, pff, ah, c'est vrai.
Oui, c'est cette fameuse blague que je t'ai sortie. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rose et de licornes. Enfin, j'espère pas.
Donc sur 2014, on sera bien là, on vivra avec vous cette saison, on va la vivre de manière un peu différente puisqu'on a décidé de changer le format, d'apporter deux gros changements dans le SAV. Le premier va concerner le format de l'émission. On va vous proposer dès cette intersaison d'ailleurs des émissions plus courtes, plus régulière et plus centrée sur l'actualité, enfin sur la Formule 1. On va garder tous les ingrédients qui font, je pense, le succès du SAV, le débat, la déconne, etc. Mais en essayant de proposer quelque chose d'un peu plus incisif, réactif, notamment parce qu'on s'est rendu compte cette année avec le MAG que par moment on avait une actualité et qu'il fallait attendre 2 semaines, voire 3 semaines pour pouvoir la traiter dans un MAG et pouvoir en faire le tour. Et que du coup, on est plus dans la synthèse du débat que véritablement dans le débat et dans le traitement de l'actualité. Donc l'année prochaine, vous aurez toujours des émissions d'après Grand Prix, dont on va garder un peu de mystère sur le format, qui lui aussi va changer,
oui.
Sera plus réactif.
Ce que j'aimerais juste dire, on a souvent parlé pour rire d'émissions fantômes, mais il y a aussi des émissions pilotes qui existent.
Oui.
Il y a vraiment.
On ne cache pas que ces deux dernières semaines, on a fait des tests.
On a fait des tests.
Le grenier du SAV.
Que certaines personnes sur Twitter ont balancé. Ah ouais, mais vous enregistrez cet après-midi. Donc, on a travaillé sur 2014.
Voilà. Très honnêtement, elles sont d'assez bonne qualité pour qu'on vous les sortira.
Oui,
on les sortira pas tout de suite.
Oui, c'est pas comme l'émission fantôme qui nécessite un certain travail.
Et donc en 2014, on vous proposera des émissions plus régulières. Il y aura pas de, en dehors des grands prix, il y aura pas de rendez-vous fixe. On proposera tout simplement des émissions quand on en aura envie, quand l'actualité l'imposera, quand on aura une question ou un débat qui fera jour, quand on aura envie d'évoquer tel ou tel sujet historique ou d'actualité, quand on aura réuni des chroniqueurs, on fera une émission qu'on mettra en ligne. On mettra en ligne, c'est le deuxième changement, mettra en ligne sur le site du SAV de la F1.
Alors qui sera toujours www.savf1.fr,
Mais qui va changer physiquement.
C'est pas un relook. Non, c'est-à-dire qu'il faut bien dire, c'est pas juste un relooking du site qu'on va faire.
On a appelé
M6. C'est une refonte complète.
Non, il faut revenir. C'est pas du marouflage là. C'est, on pète tout et on reconstruit une baraque.
Il faut revenir justement sur l'histoire du site. Nous, on a créé un site, on a créé un blog, puis un site qui fonctionne sous WordPress assez rapidement en 2009, je crois. Et en 2011, on s'est joint à FanF1, notamment parce qu'à l'époque, on ne faisait que des émissions d'après Grand Prix, et on ressentait quand même le besoin de fournir aux auditeurs un peu plus d'actualité, ce qu'on était incapable de leur fournir parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'était pas suffisamment nombreux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec FanF1 qui cherchait eux à proposer des programmes un peu différenciants pour redynamiser le site. Et nous, on cherchait un site d'actualité où on pourrait assurer véritablement le service après-vente de l'actualité. Il se trouve que depuis, donc, l'équipe du SAV s'est agrandie, qu'on traite nous aussi maintenant l'actualité dans nos émissions, ce qui n'était pas le cas au début, et qu'en changeant de format et en essayant toujours de rationaliser aussi notre investissement et notre temps de travail pour véritablement nous axer sur la production d'émissions et sur la production de quelque chose de qualité, on a également décidé de revoir notre partenariat avec FanF1 pour se concentrer sur notre site, parce que par exemple cette année il y a cette aberration, c'est que vous désignez vos top 10 sur le site de FanF1, et le live on a pu le mettre en place que sur le site du SAV. Donc enfin voilà, vous devez naviguer entre deux sites. En plus, si vous nous écoutez sur iTunes, c'est galère.
Mais précisons quand même, parce que ça c'est quelque chose qu'on a très à cœur, ça ne sera pas un site d'actualité.
Ça sera vraiment le site du SAV.
Voilà, ça sera pas le site où vous allez tous les jours pour aller voir la dernière actu qui tombe. C'est pas ça qu'on veut faire, parce qu'on estime qu'on n'est pas assez doué, qu'il y a déjà plein de bons sites pour ça. Ça sera pas ça, le nouveau site du SAV.
C'est justement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur FanF1, on peut pas, sauf à imposer des changements, etc. On peut pas non plus imposer des changements pour améliorer l'interaction entre le format audio qu'on propose et un site et véritablement créer quelque chose. Si vous regardez finalement sur FanF1, vous avez le SAV qui est là, qui vient toutes les semaines, mais on n'est pas repris dans des sites, il n'y a pas de yo-yo entre les articles et l'émission, etc. Ce qu'on veut essayer de mettre en place aussi, c'est ça. C'est-à-dire assurer le service après-vente audio, mais aussi l'assurer par l'écrit en proposant quelque chose de différent, mettant des liens. Là, par exemple, on parle du rapport iTransport. Voilà, pouvoir mettre le lien, pouvoir peut-être lier un article à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite de revoir une ligne éditoriale, ce genre de choses. Et sincèrement, c'est des changements qu'on n'avait pas envie d'imposer à FanF1, qu'on n'avait pas forcément non plus envie de tout d'un coup d'arriver et dire voilà, il faut faire ça. On a vraiment pris la décision de relancer le site du SAV, mais vraiment pour faire ce qu'on a envie de faire. Et il ne s'agit pas de faire un site d'actualité, il s'agit peut-être plus de revenir vers le côté blog, le côté un peu blog coopératif, où chacun pourra parler, même vous, si vous le souhaitez, participer à ce projet. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de vous exprimer, proposez-nous quelque chose et on verra si ça peut s'intégrer dans notre projet.
Sachant que, alors là pour le coup, c'est aussi FanF1 qui va voir ça, donc on peut pas vous dire que ça sera le cas ou pas, mais il se peut qu'il y ait encore des émissions du SAV sur FanF1.
Nous, on a pris la décision de revoir notre partenariat et de proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire de proposer à FanF1 de continuer à relayer nos émissions et nous de relayer leurs actualités. Ce partenariat-là, il est surtout à destination des lecteurs de FanF1 qui écouteraient le SAV comme ça de temps en temps et qui voudraient quand même continuer à le suivre. Et aussi parce qu'on a de très bonnes relations avec FanF1, c'est un partenaire historique, on est très content de ce qu'on a fait avec eux pendant 3 ans, on leur souhaite évidemment tout le mieux et on ne veut surtout pas croire qu'il y a des dissensions ou quoi que ce soit. C'est surtout, on a envie de proposer quelque chose de différent. Le proposer et l'imposer à FanF1, qui aujourd'hui est déjà dans une phase de relation avec des équipes, etc., c'était vouloir changer les choses, c'était pas forcément la bonne idée. On a donc préféré nous retirer tout en proposant une nouvelle version de ce partenariat dont on espère qu'il pourra être mis en place et que vos habitudes ne seront pas trop changées.
Oui, sur la,
même si nous vous encourageons, allez sur savf1.fr.
John Doe demande sur la périodicité du podcast, il y aura des podcasts après chaque course et d'autres rendez-vous dont on ne peut pas vous dévoiler.
Il y aura des rendez-vous, il y aura un rendez-vous régulier, c'est le SAV d'après Grand Prix.
Oui.
Après, bah ça sera effectivement un peu, l'idée c'est un peu, quand on en a commencé à réfléchir, l'idée c'était un peu de dire on fait un site audio, c'est-à-dire voilà, il y a une actualité, plutôt que d'écrire un article, bah de toute façon comme on va être amené une semaine ou deux semaines après à en parler dans le SAV, pourquoi tout simplement ne pas faire une petite émission d'une demi-heure qui revient sur la grosse annonce du jour, ou qui fait un peu le bilan de l'actu du moment s'il n'y a pas grand chose à dire, ou qui parle d'un sujet qui fait un peu débat en ce moment, voilà. Donc en fait, vous sur le SAV de la F1, sur le site savf1.fr, vous allez venir et vous allez dire tiens aujourd'hui il y a un nouvel article, il y a une nouvelle émission, je vais l'écouter. Voilà, il y a plus cette périodicité là, mais il y a l'idée de quand même de vous réunir autour de
et il y aura des rendez-vous périodiques, ça y a pas de souci. Ça commence quand, demande Jackie.
Ça commence
quand ce sera prêt.
On commencera dès l'intersaison, donc c'est-à-dire potentiellement si par exemple demain Ferrari annonce qu'il quitte la Formule 1, on prendra nos micros, on fera une petite émission qu'on vous retrouverez sur le site du SAV, le site actuel qui va changer dans les prochaines semaines pour être un peu plus adapté au fait d'avoir un peu plus de contenu. Il y aura toujours les SAV d'or durant les fêtes qui sont sauf à des fins, voilà, parce que ça clôt la saison 2013 et en 2014, vous aurez tous les contenus sur le site du SAV, savf1.fr, et là, il faudra venir de temps en temps regarder ce qui se passe. On va essayer de faire le site le plus ergonomique possible, justement, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a de nouveau et aussi voir ce qui va arriver bientôt. Pour justement que cette absence de périodicité et de régularité dans les contenus, vous puissiez quand même vous dire, il y a un SAV ce soir, je vais peut-être me bloquer une demi-heure pour écouter ça.
Je crois qu'on a fait le tour.
Faut pas oublier aussi qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous y tiendra au courant.
Il a raison, Jackie, vivement 2014.
Ah oui.
Voilà. Oui, pour les réseaux sociaux, on va rappeler comme d'habitude à la fin d'émission, parce que c'est toujours valable que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, sur le compte officiel @leSAVF1. Et donc, évidemment.
Ça commence à monter.
Oui, c'est vrai, on a dépassé les 100 et tout.
On n'a pas passé 153, c'est pas bien.
Non, c'est pas bien. Facebook aussi, ça fait des années que c'est sous les 153.
Mais vous voyez, c'est encore un exemple. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils de communication, mais comme on s'est un peu dispersé, on ne les utilise pas forcément toujours à bon escient, on n'a pas forcément les réflexes. Alors que si on se rassemble un peu sur un seul et même site et sur une seule et même plateforme, ça nous laisse déjà un peu plus de temps et on a aussi plus le réflexe de mettre à jour la page Facebook, le compte Twitter et ce genre de choses.
Messieurs, pour la dernière fois de l'année, n'oubliez pas que l'F1 sur Internet, c'est sûr.
Fanf1.com.
Parce que le SAV de l'F1, c'est...
La famille.
C'est bientôt plus court.
Et ça revient en 2014. N'oubliez pas.
Ouais.
Voilà, alors merci vraiment à tous de nous avoir suivis cette année. Ça a quand même été une énorme année pour le SAV de l'F1, je veux dire, par rapport à au début... de l'année, c'était classique, voilà. On a accueilli des invités de marque, on a fait du live. C'est quand même une merveille.
Et même en termes d'organisation, là, c'est plus moi à titre personnel qui vais remercier toute l'équipe parce que j'ai pas eu une année tranquille parce que je suis pas mal
de déplacements
et de contraintes techniques. J'espère bien que pour 2014, ça va se stabiliser. Normalement, ça va se stabiliser. Mais sincèrement, sans l'investissement de l'équipe, sans le fait, ce que disait tout à l'heure Gus, que chacun ait aussi pris la responsabilité de monter des émissions, de les animer, de venir plus souvent, etc. Encore une fois, quand on a recruté les chroniqueurs, on leur a dit, voilà, vous participez à la hauteur de ce que vous pouvez. C'est eux qui se sont investis et à titre personnel, je vous remercie de cet investissement. Et comme toujours, je remercie Shinji. Voilà, parce que sans Shinji, il n'y aurait pas de SAV.
Je remercie Dino parce que sans Dino, il n'y aurait pas de SAV.
Voilà. Par contre, les auditeurs, mais on s'en fout. Oui. Parce qu'il faut savoir, sans vous, il y aurait quand même un SAV. Mais c'est quand même mieux avec vous.
Alors tu vois, il n'y a pas de proverbe habituellement dans les mags du SAV, mais je crois que c'est une magnifique phrase pour terminer l'émission. Merci à tous. On vous souhaite un bon mois de décembre, hein, c'est les fêtes, profitez-en, c'est l'intersaison, vous le savez, c'est peut-être le mois où il se passe le moins de choses, hein.
Il va se passer deux choses. Il va se passer les SAV d'or, hein, qu'on va quand même. À un moment donné, il y a quand même pas mal de choses sur la planche de travail.
Là, c'est bon, les SAV d'or, faut qu'on les SAV... C'est bon. Les émissions, c'est bouclé. On peut faire les SAV d'or. Là, c'est bon.
Elder,
faut que tu nous parles parce que
si vous avez des signes de vie d'Elder, envoyez-nous un mail.
Si vous le voyez dans GTA 5, attention, ce n'est pas Elder, c'est son sosie.
Et puis il y a le tirage au sort du concours Top Opposition. On vous oublie pas, faut juste qu'on
on vous l'organise.
Voilà, on va pas faire un tirage au sort à un tout seul devant une caméra parce que en ce moment c'est tout ce qu'on pourrait faire.
Oui, voilà. Donc
on arrive à mettre ça en place d'une manière ou d'une autre.
Et peut-être même qu'on peut coupler certaines choses et voilà. Donc on verra.
Donc voilà, vous inquiétez pas que quand on fera le tirage au sort, on communiquera à fond dessus sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook pour vraiment que vous soyez informés.
Vous inquiétez pas, on y pense, on ne l'oublie pas. Ça, il n'y a pas de souci.
C'est comme elle va devenir de l'éphéméride.
Oula. Ah oui, il faut qu'on quitte les gens sur une bonne nouvelle.
Alors, s'il y a bien un truc que tu ne me voles pas, c'est cette annonce. Je peux le dire.
Shinji, on a annoncé qu'il y avait des choses qui disparaissaient. On doit tenir nos promesses. Parce qu'on te connaît, si tu dois faire une annonce, tu vas attendre 2017, on va encore souffrir 4 ans.
Non. Voilà. Nous
même
allons
toi, finir. Marche,
nous
dit,
allons. Je vais finir l'émission et cette année sur cette phrase et ensuite vous aurez le générique parce que faut bien quand même finir l'émission. En effet, il n'y aura plus d'éphéméride parce que je l'ai décidé. Voilà, j'ai fait le tour. Ça me prenait du temps. Voilà, donc je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour arrêter.
Puis il a été subjugué sur mon éphéméride sur les mineurs chiliens, donc.
Carrément.
C'est-à-dire que, ouais, il s'est retrouvé dans la peau des gens et il s'est dit, ah ouais, merde. La vache.
Allez, ciao à tous.
Salut.
Salut.
And it's lights out.